Les élections européennes vont-elles être un fiasco pour la Macronie? Va-t-on assister à une vague populiste? Faut-il aller voter? Ou est-ce un piège à cons? À ces questions, vous répondez... une figure du mouvement souverainiste, Paul-Marie Couteau. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, générique.
Nous sommes en guerre.
Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Et oui, nous sommes même là un lundi de Pâques. Donc, on vous salue. On vous souhaite d'excellentes fêtes de Pâques. C'est en direct. Voilà. On est en direct. Et aujourd'hui, on va parler politique. On va parler élections politiques nationales, internationales aussi. Et pour ça, on reçoit un investi prestige, hein, toujours d'ailleurs prestige, mais là, plus que d'habitude, parce que je suis vraiment très content de l'avoir, parce que ça fait des années que je le connais, et c'est la première fois que je le reçois en plateau et en interview, c'est Paul-Marie Couteau. Bonjour, cher Paul-Marie.
Bonjour, bonsoir.
On peut dire voilà, que vous êtes quand même une figure du souverainisme, et moi, ça me fait plaisir de vous avoir ici.
Merci beaucoup. Je connaissais les succès de Géopolitique Profonde, mais je vois qu'ils sont très mérités.
Bah c'est gentil. On va parler ensemble politique, parce qu'il faut dire une chose, c'est pas folichon, hein, quand souverainiste.
On peut parler de sujet, si vous voulez.
Non, mais politique, parce que les Européennes arrivent.
Oui, il ne faut pas accorder trop d'importance à ces élections. Je suis étonné, parce que j'ai l'impression que cette fois-ci, les passions sont parties... presque déchaînées, enfin elles sont vives plutôt qu'à l'accoutumée, je crois. Nous sommes encore tout de même à plus de 2 mois de l'échéance. En général, les Français s'aperçoivent 15 jours ou 3 semaines avant qu'il y a des élections. Là, c'est un petit peu anticipé, peut-être parce que les Français veulent en découdre avec Emmanuel Macron et ses sbires et tout ce qu'il représente. Et puis, il n'y a pas eu d'élection depuis 2 ans, mis à part des sénatoriales qui sont passées un peu inaperçues. Donc, il y a un appétit. Je ne sais pas si je vais conforter mon premier sentiment, qui, je peux l'avouer, entre vous et moi, nous connaissons depuis longtemps, mon premier sentiment était de m'abstenir et d'appeler à l'abstention.
Mais vous m'avez dit, c'est un peu un piège à con, quoi, les élections.
Oui, j'ai déjà chanté ça au 19e siècle. Mais, parce que je fais de la politique depuis très longtemps maintenant, cela étant, il faut poser d'abord que ces élections ne changeront rien quand on court de l'Union européenne, quelle que soit la composition du gouvernement, attendu que le gouvernement n'a pas de poids, le Parlement européen, j'y ai siégé 10 ans, je sais qu'il a aucun poids, sauf sur des queues de cerises. Et d'ailleurs, la Commission européenne qui mène le bal n'est elle-même pas tout à fait indépendante vis-à-vis des oligarchies extérieures, supranationales. Donc l'enjeu est mince et j'ai peur. C'est pourquoi je demande aux Français d'examiner ce qu'ils font avant d'aller voter. Peut-être est-ce mieux d'aller à la pêche ou d'aller se baigner, ou de lire des livres.
Il n'est pas si mince symboliquement. En fait.
Parce que c'est tout de même habillé de démocratie, une entreprise, je le voyais déjà il y a 20 ans quand j'étais député, qui vire au totalitarisme pur et simple. Alors est-ce qu'on a intérêt à donner à entendre qu'il y a une apparence démocratique à ce qui est purement et simplement une entreprise totalitaire? Je pense que aller voter, c'est d'être dupe d'un jeu, de toute façon, d'un jeu fait contre nous.
Alors, on va parler de ça, cher Paul Malécouteau, mais avant, je vais présenter tous les intervenants plateaux qui sont à vos côtés. Alors, d'abord, à votre droite, Lara Stam de Radio Courtoisie. Bonjour, chère Lara, comment ça va ? Non, c'est Mike. Nicolas, c'est un autre, hein, c'est pas moi. Ne hein. vous trompez pas.
Vous avez choisi Nicolas.
Voilà. Bonsoir Mike, merci beaucoup pour cette invitation. Ça fait toujours très plaisir.
Ben, moi aussi, ça me fait très plaisir. Donc tous les samedis matin, le Libre Journal, Radio Courtoisie, Libre Journal de Géopolitique Profonde, voilà. On est et la radio, et YouTube.
Voilà, avec une revue de presse qui a maintenant son succès.
Que vous faites merveilleusement.
Voilà, bon, à deux voix. Justement avec Nicolas.
Bon, j'espère avoir votre avis sur ces élections, parce que je crois que votre avis n'est pas le même que celui de Paul-Marie Couteau.
Eh bien, oui, je vous le réserve.
Merci beaucoup, chère Lara. François Martin, géopoliticien, il a écrit « L'Ukraine, un basculement du monde ». Bonjour, cher François.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Je vais bien depuis.
Moi, ça me fait très plaisir de vous voir.
Ça fait 10 jours qu'on s'est vu. Et
voilà.
C'est pas parce que c'est le 1er avril que ça sera de la frime, mais ça sera au contraire, je pense, quelque chose de sérieux qu'on va faire.
Hein. Bah oui, sérieux.
Comme
et puis,
tout ce que fait cette superbe.
Et puis, en tant que gaulliste.
Superbe chaîne, oui.
Ah bah c'est gentil. Mais en tant que gaulliste, j'imagine que vous avez un avis sur ces élections et sur l'Union européenne.
Ah bah bien sûr.
Donc on va en parler
largement
ensemble.
Ouais, ouais,
et enfin Philippe Perlin, économiste star à la cravate or, spécialiste du Bitcoin. Comment ça va, cher Philippe ?
Ça va, en forme, toujours là. Même un jour férié.
Même un jour férié.
C'est les cadences infernales sur TV, mais ouais. je viens quand même.
Mike ne s'arrête jamais.
C'est un peu l'esclavage ici. On fait travailler tout le monde comme un jour normal, quoi.
Voilà.
La chronique, c'est
le fait que la Banque de France possède une part de la dette de l'État. Et je vais expliquer pourquoi et quelles sont les conséquences.
Eh ben, on va en discuter. Merci beaucoup, cher Philippe. Alors, le grand entretien avec Paul-Marie Couteau. Enfin, ce que vous avez dit, cher Paul-Marie, c'est quand même, en tant que gaulliste historique, c'est quand même surprenant.
Vous vous trompez un peu, là, cher Mike, parce que le général de Gaulle était absolument opposé à l'élection des membres de ce qui s'appelait alors l'Assemblée de Strasbourg.
Oui, des membres de Strasbourg, mais pas l'élection en elle-même, parce que là, on est dans une élection qui...
Alors écoutez, j'ai plusieurs choses à vous dire.
Allez-y.
D'abord, l'histoire ne s'est pas faite à coup d'élection. On s'amuse beaucoup avec les élections. Ça n'empêche pas ce pays, d'élection en élection, de sombrer dans le précipice. On peut dire que le pays s'est construit pendant des siècles sans élections, il se détruit avec les élections. Donc j'ai de toute façon un a priori contre les élections. Au risque de vous choquer, je dirais le fond de ma pensée pour vous, je pense que vous vous aimez autant. Deuxièmement, le général de Gaulle et les élections, ça n'est pas une lune de miel. Le général de Gaulle est arrivé pour la première fois au pouvoir, ce qui fut un semblant de pouvoir, le tronçon de l'épée. Même un moignon, on pourrait dire, le 18 juin 40, c'était un coup d'État. Et il est revenu au pouvoir en 58 par un autre coup d'État. Et puis la première fois que le général de Gaulle s'est présenté à des élections, c'était en 1965. Ça s'est pas très bien passé, il n'a pas joué le jeu du premier tour, il n'a même pas fait campagne, parce que c'était... Encore une fois, il faut avoir beaucoup de précautions vis-à-vis des élections. Je ne suis pas tout à fait contre... Par parenthèse, on a toujours voté, mais pour des élections secondaires en France, y compris sous l'Ancien Régime. Sous la monarchie, personne ne le sait, mais les Français votaient souvent.
Oui, oui.
Et d'ailleurs, même les femmes votaient. Mmh. Enfin, elles votaient quand le mari était à la guerre ou mort. Mais enfin, vous voyez, il y a une mesure de l'élection. Et je ne dis pas qu'il faille les récuser. Mais il ne faut pas non plus en faire cette espèce de religion qui mobilise toute la classe politique. On a un exemple, c'est le Front National qui n'a jamais rien fait d'autre que des élections et qui finalement n'aboutira jamais à rien. Parce que s'il n'y a pas de réflexion derrière...
Vous pensez qu'ils ne prendront pas le pouvoir ?
J'espère bien que non, parce que s'ils prennent le pouvoir, c'est sur ordre des oligarchies pour foutre la France en l'air. Pour avoir un bon prétexte, mais j'y reviendrai peut-être, de dire, ah, vous voyez, la France est dirigée par l'extrême droite. Les Américains adorent ça, ils aiment toujours voir... Ils ont soutenu Pétain, ils ont, avec leur opération Paxton, ils sont revenus sur l'idée que la France était un vieux pays catholique, monarchiste et antidémocratique. Ils aiment beaucoup l'habiller sous ces oripeaux-là, et évidemment le Front National, maintenant Rassemblement National, donnerait un prétexte aux États-Unis et aux oligarques mondiaux pour supprimer notre force de frappe, grignoter nos dom-toms, faire litière de notre siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Si Marine Le Pen ou quiconque de ce genre, dans l'impréparation dans laquelle elle est, j'ai pas toujours pensé ça, j'ai pensé qu'on pouvait en faire quelque chose de Marine Le Pen, ça a duré...
Là, vous n'avez plus d'espoir envers elle.
Oh, ça a duré 2 ans ou 2 ans et demi, j'ai compris à qui j'ai affaire, je peux vous raconter des anecdotes.
Bah, allez-y, allez-y, il faut raconter, là, vous êtes là pour raconter.
Hein. Oui, si vous voulez. Mais je craindrais qu'elle arrivât au pouvoir parce que ce serait pour une manière pour les oligarques mondiaux de se déchaîner contre la France. Et ce serait un coup de grâce.
C'est-à-dire que ce serait pire, Madame Le Pen, que M. Édouard Philippe, par exemple.
Écoutez, si vous voulez que je vous choque jusqu'au bout, ce serait même pire que Macron.
Ah bon ?
Oui, Macron détruit le pays, mais à petits pas. À pas compter, il le détruit. Il arrive pas à pas. Mais avec Marine Le Pen, je pense que le pouvoir entre ses mains lui échapperait d'abord, aboutirait à des charivaris nettement alimenté par l'étranger, et il en sortirait très certainement en termes de 6 mois, c'est pas à pas, ou dans la première année, une déréliction à peu près complète des instruments de puissance qui restent à la France. Conséquemment, je pense que ce serait un drame national, surtout dans l'état d'intérêt.
Quoi, elle irait jusqu'à vendre la dissuasion nucléaire,
mais
par
on
exemple.
Lui prendrait, tout simplement. Qu'est-ce que vous croyez qui dirige les États aujourd'hui? C'est pas les gouvernements. Bon. Pour en revenir aux élections qui étaient le point de départ, pour ce qui est des élections européennes, je vous signale que beaucoup de gaullistes dans les années 70, je vous reprendrai sur ce, puisque c'est vous, Mike, qui évoquez De Gaulle, sur ce point, beaucoup de caciques du gaullisme et puis du RPR refusaient l'élection au suffrage universel de l'Assemblée de Strasbourg, ce qu'on appelait l'Assemblée de Strasbourg, qui deviendra Parlement européen. Cela étant, j'ai mauvaise grâce à m'en tenir là, puisque j'ai été élu et par 2 fois, en 1999 et en 2004, au Parlement européen. J'ai donc joué le jeu. Je pense que ça n'a pas servi à grand-chose, sauf en ce que ça apportait des informations, parce que j'avais plus ou moins entré, c'est pas si simple d'ailleurs, mes entrées à la Commission européenne, c'est moi, par exemple, qui avais sorti pendant le référendum sur... la Constitution européenne, la circulaire Bolkestein. J'avais sorti dans une publication, j'ai la manie de diriger des revues ou des publications, chacun ses défauts, et j'avais sorti la circulaire Bolkestein.
La circulaire Bolkestein
détruire, en tous les cas pour les travailleurs venus d'autres pays européens, toute protection sociale, en la diminuant, et en reprenant que dans leur propre pays, quelquefois très rudimentaire, la protection sociale. Ça avait été utilisé par Philippe de Villiers, avec lequel j'avais été élu, et qui en avait fait toute une petite affaire. La gauche l'a repris, et on peut dire que, bon, là, pas de vue là, j'ai été utile à mon pays lorsque j'ai sorti une information qui, je crois, a compté dans le sort du référendum de 2005. Cela étant, ce référendum de 2005, il ne servait à rien. Donc, on est toujours refait, si vous voulez. Et il me semble, j'ai pas voulu prolonger mon mandat en 99 pour une raison que j'aurai à cœur d'expliquer plus tard, tout à l'heure, qui a quelque chose à voir avec l'Empire américain, qui mène le bal, je le répète. Donc, vous voyez, peut-être vous paraîtrais-je un peu radical, mais je ne fais pas du tout une religion de ces élections. Il est de notoriété publique, mais je crois que c'est sorti dans un journal, que j'ai fait ce que j'ai pu pour que...
Pour une union des souverainistes, en gros.
Certains de mes amis, oui, Nicolas Dupont-Aignan, que je connais depuis 1986, que je connais de très longue date, qui est un ami, Jean-Frédéric Poisson, que je sers, puisque je suis membre du Parti chrétien-démocrate, qui s'appelle VIA maintenant, je suis même censé être son porte-parole, mais je dois dire ici que je ne suis pas le porte-parole de rien du tout, mais je ne parle qu'en mon nom. Jean-Frédéric Poisson et Florian Philippot s'allient pour faire une union des souverainistes. J'avais eu espoir, d'ailleurs, de faire en sorte qu'Éric Zemmour nomme à la tête de la liste qu'il soutient une autre personnalité que Marion Maréchal, qui aurait pu être un élément de concorde.
Pourquoi une autre personne que Marion Maréchal c'est pas la personne un peu qui a le vent en poupe actuellement pour vous, elle ne représente pas ce que les gens, enfin, ce que certains pensent.
Écoutez, je la connais assez bien, et d'assez longue date aussi, je connais un peu tout ce petit monde. Je ne suis pas sûr que ce soit un très bon choix. Je l'avais dit à Éric, d'ailleurs, il y a 2 ans, à Éric Zemmour, et à Guillaume Pelletier, je leur avais dit de ne pas faire cette erreur de propulser Marion Maréchal à la tête de cette liste. J'avais toutes sortes de raisons, inutile d'y revenir. Mais vous voyez, ce que j'espérais, c'est une union. Comme d'habitude, j'aurais labouré ce pauvre territoire du souverainisme français pour faire en sorte que les égaux disparaissent derrière l'impératif d'une union des souverainistes. Je ne dis pas pour rien, puisque j'ai, on peut dire, implanté le mot, enfin exporté du Québec le mot souverainisme, que je trouvais très commode pour qu'on ne s'appelât pas anti-européen ou nationaliste, etc., mot qui est plein d'équivoques. Il n'est pas nul, le mot nationalisme, il est très mal compris, et donc je trouvais que souverainisme allait mieux. Je l'avais mis dans la bouche de Philippe Séguin, Charles Pasqua, dans mes propres ouvrages, à l'époque j'avais le courage d'en écrire, et Philippe de Villiers qui l'a repris assez noblement. Donc j'ai toujours essayé de faire en sorte que cette famille souverainiste soit unie. Et je me casse les dents sans cesse sur les égaux et les calculs politiciens, sur ce que le général de Gaulle appelait les partis.
Ça avait raison, mais d'où viennent ces égaux? Parce que...
D'où viennent les égaux? C'est péché original, cher ami.
Je sais bien, mais on a quand même des représentants qui, séparés, ne pèsent que 1, 2, allez, 3% au maximum.
Ben, c'est pas moi qu'il faut le dire, c'est ma croix depuis des années.
Comment vous l'expliquez, ça?
Si je vous dis le péché originel, vous allez trouver que j'exagère. Mais voilà, y a un vice dans la boîte, et là, pour le coup, je serai critique vis-à-vis du général de Gaulle, puisque vous en parlez, mon cher Mike. Je trouve que l'élection au suffrage universel du président de la République réforme de 1962 a beaucoup modifié la façon, puis sont arrivés les médias, l'exposition médiatique, l'obsession d'aller à la télé, ils sont tous fous pour aller à la télé. Bon, ils veulent tous leur petite marmite et faire flotter son drapeau sur la marmite. On a hyper personnalisé la vie politique française autour de quelques écuries dont les chefs se prétendaient présidentiables. Voilà, c'est un des aspects extrêmement délétères, à mon avis, de la réforme de 62. Je ne suis pas contre, au fond, je ne sais pas ce qu'on peut... Enfin, si, je sais d'ailleurs ce qu'on peut mettre à la place, c'est un roi, mais enfin, je ne dirai pas le fond de ma pensée. Enfin, je viens de le dire, mais je n'irai pas plus loin.
C'était pas mal.
Je voudrais une autre... Ça s'appelle la prétérition en rhétorique. Non, je pense qu'il faudrait à la tête de l'État une incarnation forte de l'intérêt national et mieux encore du bien commun qui soit une autorité impartiale. Les élections peuvent aller, évidemment, sont utiles pour les législatives ou les élections locales. Cela étant, la tête impartiale de l'État, de Gaulle l'a cherchée, notamment justement en essayant de mettre en piste dans les années 60 le comte de Paris. Une des raisons d'ailleurs de cette réforme de 62, ça nous entraînerait être loin, c'est qu'il avait à ce moment-là l'espoir, très vite déçu, n'est-ce pas, de par la complexion propre du comte de Paris, de mettre le dit comte de Paris en piste pour les élections de 65. Mais tout de suite, on est arrivé à une aporie. Ce chef de l'État qui devait être le chef de tous les Français, le président de tous les Français, a fini par n'être plus que le président d'une majorité au détriment d'une minorité quelquefois importante et qui ne se reconnaissait pas nécessairement en lui. Donc il est devenu chef d'un parti, si vous voulez. C'est exactement l'inverse de ce que voulait le général de Gaulle en 58. Et la Constitution a été construite pour ça. Donc il y a une aporie, il y a un hiatus dès le début. Et je pense que ça explique en grande partie, outre la médiocrité générale des hommes politiques, hélas, trois fois hélas, y compris des souverainistes, qui sont souvent des personnalités médiocres, souvent, pas toujours, complètement excités par l'idée, encore une fois, de passer à la télé, d'avoir leur boutique. Puis c'est l'égoïsme qui est consubstantiel à la faute originelle. C'est-à-dire que nous ne savons pas dépasser nos égos et nos égoïsmes. C'est très difficile, c'est une ascèse chrétienne. La chrétienté a reflué, hélas, au bénéfice d'un intérêt supérieur qui transcende les intérêts.
Je ne pensais pas que vous auriez... ici, en plateau, la dent aussi dure envers
Père. J'en ai beaucoup à votre service.
Et tiens, une personnalité dont on n'a pas parlé, c'est M. Asselineau. Est-ce que lui, par exemple, peut-être le rassembleur ou alors est-il qu'une sorte de diviseur?
J'ai beaucoup d'amitié, d'admiration, de confiance en François Asselineau. Je veux dire qu'il est extrêmement cultivé. En 2017, de tous les candidats, il était avec François Fillon, que je soutenais, bien sûr. Enfin, bien sûr, je le soutenais. Le seul qui avait une véritable culture d'État. Vous voyez ce que je reproche, Mike, à bien des gens qui font de la politique, c'est de n'avoir pas de culture d'État. De ne s'être pas frotté à la vie internationale, comme François Asselineau l'a fait, notamment en étant membre de plusieurs cabinets ministériels, notamment longuement du cabinet de ministre des Affaires étrangères. Ça, c'est très formateur. Il a même dirigé des cabinets. Donc, il a une culture d'État. Il a rencontré un jour l'empereur du Japon, un autre jour le président chinois ou le président argentin. Il a une stature d'État qui manque à tant d'autres. Alors, je ne veux pas dire, je connais mieux que quiconque la querelle qu'il y a entre les souverainistes, et notamment... alors que je suis partisan du Frexit, et j'ai même écrit un livre en 2006 qui s'appelait « Sortir de l'Union européenne », donc je suis même un vieux patriarche de la sortie de l'Union européenne. J'avais publié ce livre en 2006, quand j'étais président du RIF avec Jean-Paul Bled et Alain Bournazel. Il y a évidemment la querelle, la concurrence avec Florian Philippot, que soutient le président de mon parti, Jean-Frédéric Poisson. Ils l'ont annoncé cette semaine, ils lancent leur campagne commune dans quelques jours. J'ai tout fait, mais je savais que c'était impossible pour faire en sorte qu'ils partent ensemble. Mais là aussi, il y a des inimitiés terribles. Je ne dis pas que Florian Philippot manque de qualité aussi. Je le connais, on s'est souvent opposé, notamment... autour de Marine Le Pen. Je voulais que Marine Le Pen ait un certain jeu, Florian un autre, il voulait jouer un jeu ni droite ni gauche, que Marine Le Pen a fini par entendre parce qu'elle correspondait à son sentiment intérieur. Mais le résultat, c'est qu'on a un paysage délabré, voilà. Le souverainisme français, alors le mot a un certain succès au point qu'il ne veut plus dire grand-chose, j'aurais dû écrire un livre pour dire ce que c'était. C'est très précis pour moi, le souverainisme.
C'est quoi, c'est l'union des droites ?
Ah non, 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 non. Alors là, soyons, je prends une gorgée de...
Allez-y. Parce que
le morceau est important. L'union de droite, je n'en fais pas une religion. Je constate simplement que la Ve République a adopté un mode de suffrage qui impose dans toutes les élections nationales, la présidentielle aussi bien que les législatives, un scrutin à deux tours. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est ainsi que les choses sont faites. Or, la gauche, avec cette espèce de réflexe de supériorité agaçante, stupéfiante, qui va vraiment très, très loin dans les esprits, pense toujours qu'elle est supérieure à la droite et que donc ils vont, leur chapelle ou leur parti ont une alliance naturelle. Donc au second tour, on a toujours affaire à une alliance peu ou prou de presque toutes les gauches. Il y en a un qui a réussi ça magnifiquement, par exemple, c'est François Mitterrand en 81, il avait tout compris. En face, on n'a jamais réussi à s'unir. Ce qui est à droite. Alors il faudrait revenir...
Oui, il y a eu l'UMP aussi qui a uni une partie de la droite.
Eh oui. Il faudrait aussi revenir, mais je ne sais pas si on a le temps, parce que ça, c'est vraiment le fond des choses.
Bah, allez-y. Il faut justement, c'est ça la géopolitique profonde, bon, c'est de parler...
C'est très agréable, je n'ai pas l'habitude, mais je
vous
remercie beaucoup. Je vous en remercie beaucoup. j'en fais pas non plus une religion, mais je pense que c'est de l'ordre, il y a un ordre multimillénaire qui s'ordonne entre ce que nous appelons la droite et la gauche. Je crois que ce sont vraiment deux permanences qui répondent au tréfonds de l'esprit humain. Nous aimons tous, De Gaulle dit ça en 65 à Michel Droit, nous aimons tous le progrès, en tous les cas le changement. Et nous aimons tous, et l'humanité oscille de l'un à l'autre, garder ce que nous aimons et ce que l'héritage que nous avons reçu en partage nous a fait aimer. Vous savez, cette querelle, elle est très ancienne. Elle prend son origine pour moi. J'ai souvent développé ça, et nous le faisons dans le Nouveau Conservateur, la revue que j'ai l'honneur de diriger, avec François Martin notamment. Dans un dialogue assez amusant entre Héraclite et Parménide, je ne sais pas si ça peut intéresser nos auditeurs de revenir à ces considérations lointainement philosophiques, enfin précisément philosophiques. Héraclite avait une idée maîtresse, tout change, tout se transforme, et il prenait pour exemple, on ne se baigne jamais dans la même eau. Parménide est un essentialiste. Ils sont mal vus, les essentialistes, par le monde moderne, parce qu'ils pensent qu'il y a des permanences. Une des grandes phrases de Parménide est « ce qui est, ce qui n'est pas, n'est pas ». C'est-à-dire, il postule l'idée d'essence. Et à l'image d'Héraclite, Parménide répond « ah oui, on ne se baigne pas toujours dans le même eau, mais c'est toujours le même fleuve ». C'est-à-dire que, vous voyez, l'esprit humain oscille entre deux regards sur le monde. Il y a ce qui change, et qui est utile. Il est impossible de rester fixe. Et même les apparences doivent changer. Et puis, il y a ce qui demeure. Il y a ce qu'il faut conserver. Et je crois que depuis 3 siècles, les forces du changement, ce qu'on a appelé le progrès, avec 18 majuscules, qui en est devenu un système, le progressisme, a apporté beaucoup au début. Je pense qu'il fallait, il fallait que l'humanité, à un moment ou à un autre, en tous les cas la civilisation française, se régénère. Mais il y a aussi des moments où on va beaucoup trop loin avec Macron, avec le transhumanisme, parce que pour moi, Macron est un révolutionnaire transhumaniste, mais enfin, on peut y revenir. On va beaucoup trop loin jusqu'à changer l'homme. Et ça, il n'y a rien de plus impie, et c'est évidemment la source de tous les totalitarismes, et le progressisme est un totalitarisme. D'ailleurs, je voudrais instruire le mot conservateur, qui a été un peu perdu de vue,
oui, d'ailleurs, c'est vrai
contre
que,
le totalitarisme.
Appeler ça conservateur, parce que souvent, les souverainistes, en tout cas que l'on connaît, oui, ne sont pas conservateurs.
Eh bien, si vous référez à ce que je viens de dire, le maintien de la souveraineté nationale et le maintien ou la conservation de l'instrument essentiel de
l'action
politique.
Mais parmi les personnalités qui se présentent avec cette étiquette,
ils ne se disent pas conservateurs, mais je pense qu'ils peuvent l'être au moins. Ils mettent l'accent sur le point principal de l'action politique, qui est une souveraineté, un État, expression d'une nation et une souveraineté. C'est ce que j'ai appelé le souverainisme, je le résume et puis c'est théorisé ensuite. Le souverainisme a 3 pieds. J'aurais dû écrire ce livre. J'ai commencé, puis je n'ai pas fini par aquabonisme, comme on disait. Parce que je n'ai jamais pensé qu'on pouvait modifier le cours des temps, même avec la plume. Il y a la souveraineté, ce qui vient à l'esprit de tout le monde, c'est-à-dire le refus des hégémonies supranationales. Que ce soit l'Union européenne, que ce soit l'OTAN, on voit très bien ce que peut vouloir dire cette l'indépendance nationale, si vous voulez. Mais il y a aussi la deuxième souveraineté, qu'il faut penser ensemble, parce que c'est une dialectique, c'est la souveraineté de l'État en France, dans le corps politique national, vis-à-vis de ce qu'on a appelé longtemps les féodalités, qu'on appelle aujourd'hui les lobbies, les oligarchies, si vous voulez. Il y a aussi des oligarchies intérieures, de la finance, des syndicats, des partis, tout ce qui confisque le bien commun. Et la souveraineté est l'affirmation de l'autorité de l'État vis-à-vis de ce qu'on a appelé souvent, ce qui fut pendant très longtemps, le problème des rois d'ailleurs, c'est-à-dire les grands féodaux. Bon, et puis quelquefois les puissances d'argent confèrent les templiers qu'il a fallu... Heureusement qu'on l'a fait d'ailleurs brûler parce qu'ils attentaient beaucoup à l'indépendance de l'État. Enfin, C'est pas très à la mode, on ne peut pas brûler certains personnages que l'on voit défiler, bien qu'ils le méritent.
Ça serait pas si mal de
bien
temps en temps.
Bien qu'ils le méritent, François, vous avez raison. Nous sommes,
en public.
Nous sommes devenus au fil du temps tellement mollassons qu'on n'ose pas assassiner les imbéciles.
vaste c'est sûr que ça, on en dit des choses dans ce plateau.
C'est sûr que ça passe à l'antenne.
Mais en tous les cas, assassiner les ennemis de l'État, comme la fille... Très bien, d'ailleurs, très utilement, Philippe IV le Bel. Et puis, il y a une troisième souveraineté. C'est un trépied, le souverainisme. Il faut aussi penser en dialectique. C'est la souveraineté culturelle. C'est le droit de prolonger les éléments essentiels. Essentiels, je ne dis pas par hasard, c'est l'essence, c'est-à-dire ce qui perdure au fil des siècles, de notre civilisation. Ce qu'on appelle maintenant l'identité. Ce mot dérange beaucoup de monde. Pas moi, ça ne me fait pas peur de dire qu'on a le devoir de défendre une identité nationale qui vous préexiste et qu'il faut,
transmettre l'héritage. Je vais sûrement me répéter, mais il faut le redire. Mais les personnalités dites souverainistes que l'on voit dans les grands médias ne parlent pas d'identité, parlent peu d'immigration et ne sont pas conservatrices. Vous êtes aujourd'hui à contre-courant de ces gens.
François Asselineau, puisqu'il m'en parlait tout à l'heure, dans son programme la préférence chrétienne, quand même.
Ça, ah bon
c'est un... Oui. Il veut même modifier l'article 3 de la Constitution.
Il disait que...
Pour introduire la...
Plus proche.
Il disait que nous étions plus proches de, je sais pas moi, d'un Malien ou d'un Sénégalais que d'un Lituanien.
S'il parle
français... En génétique, c'est possible, oui.
Ah, peut-être.
S'il parle français, après tout... Un lituanien est loin de parler français. Il y a un élément, alors ça aussi, on peut en parler très longtemps, il y a un élément quand même essentiel, surtout en France, de la civilisation, qui est la langue. Parce que la France a été en grande partie, j'y ai consacré un livre, être et parler français. La langue a été la grande matrice de la constitution de la nation française. Donc la langue... est absolument essentiel et je nierais qu'il y ait une civilisation européenne, tout simplement parce qu'il y a une diversité des langues.
J'ai trouvé
ça au Parlement européen. On ne se comprend pas, même avec les accents, etc., les accentuations, personne ne se comprend pas parce que c'est la tour de Babel. Et comme la tour de Babel, ça va s'effondrer principalement pour une question de langue, à mon avis.
Oui. Dans tous les cas, on va en parler, tous ensemble.
Je ne pense pas pour conclure qu'il y ait
une
civilisation européenne, mais il y a une civilisation française, et c'est le troisième pied de ce triptyque que je crois qui instruit le souverainisme.
Merci beaucoup, cher Paul Maricouteau. En tout cas, c'était passionnant.
Merci.
Je suis vraiment très content de vous avoir aujourd'hui.
Par de nouveau écrire des livres.
Je pense que vous êtes trop absent. Et je pense que ce pays a besoin de personnalités telles que vous. Mais vraiment, hein.
Je suis souvent découragé, je veux dire.
Ne le soyez pas, hein, parce que... Ne le soyez pas, sinon...
Non, je suis parti vivre à la campagne pour plus entendre parler de rien.
Vous avez bien fait.
Mais je suis revenu.
Vous avez bien. En tout cas, merci à vous, cher Paul Maricouteau. Et on va passer au grand débat avec nos trois amis qui trépignent. Mais avant ça, les petites annonces.
Quand j'étais petit, je lisais dans le rayon BD des grandes surfaces. J'ai pas beaucoup changé. Sauf qu'à présent, je lis la revue mensuelle de Géopolitique Profonde. Qu'y a-t-il dedans? De l'économie, de la politique... Et bien sûr nos solutions financières, parce que s'appauvrir arrive très rapidement. On peut vous aider à y voir plus clair dans vos finances. Par contre, pour le reste, il va falloir grandir.
Merci à vous d'être si nombreux un lundi de Pâques. 3339 personnes en même temps. Merci à vous, vraiment. Ça nous fait plaisir. Vous êtes avec Paul Maricouteau. Mais n'oubliez pas avant quand même, hein. Le libre journal. Alors là, maintenant, faut que je déconnecte de Radio Courtoisie.
C'est un journal libre.
Voilà. La lettre de Géopolitique Profonde. Voilà, le mois d'avril, avec comme auteur Laurent Ozon, Jean-Maxime Corneille, Philippe Perlin et le général de Lavarde. Tiens, qu'est-ce que vous en avez pensé là, de cette discussion qu'on a eue avec Paul Maricouteau? Tiens, qui veut prendre la parole? Allez-y, cher François.
J'ai rien à dire contre ce qu'a dit Paul Marie, mais Paul Marie nous décrit ce que c'est que la côte à marée basse, où on voit tous les rochers, tous les cailloux, etc.
Donc pas la pleine mer aujourd'hui.
Extrêmement lucide. Moi, je pense
lucide ou pessimiste?
Les deux. que le pessimiste, la lucidité est pessimiste. Puisqu'on part de ce qu'on voit qui n'est pas bien et qu'on essaye de montrer comment on peut faire mieux. Et je pense qu'on peut apporter une vision en complément qui est celle de la marée haute. Et c'est ça que je voudrais essayer de montrer. Je m'explique très vite. Lorsque j'étais j'ai beaucoup voyagé, hein, aussi pour mon plaisir, dont en Pologne en 81, à l'époque. Et c'était à l'époque où il y avait les grandes grèves de Gdansk. Et les Polonais que je voyais n'étaient absolument pas au courant des grèves de Gdansk, menées, comme on sait, par Waleza. Et ils disaient, il se passe quelque chose de grave dans notre pays parce que c'est la première fois dans notre histoire qu'on prononce le mot de grève à la télévision. Donc, ils étaient absolument en dehors de tout mouvement historique, même s'ils l'avaient senti. Et Waleza faisait les grèves. Et évidemment, ce n'était pas son idée de se dire, un jour, je prendrai le pouvoir. Autre exemple. Quand Solzhenitsyn sort ses papiers et publie ça, il se dit pas un jour je ferai tomber le régime, mais il se dit je serai toujours là, jusqu'à ma mort je serai toujours là. C'est-à-dire, c'est la phrase de Solzhenitsyn qui cite dans l'erreur de l'Occident, où il dit ce sont pas les revendications fortes qui font les révolutions, ce sont les régimes faibles. Et les gens ont toujours tendance à oublier ça parce qu'ils se disent « il faut que je travaille pour faire tomber le gouvernement ou le système ou le totalitarisme qui est le mien ». Non, en fait, il faut être là le jour où ça tombe. Donc, je pense que c'est susceptible de donner de la force et du courage. Et c'est ça, en fait, qu'il y a derrière. Je dirais ça, je pense que ce qui se passe aujourd'hui chez nous, c'est exactement ce que j'ai vu dans les années 80, au début 80 et après, entre 88 et 92, j'ai voyagé en permanence dans les pays de l'Est, République tchèque, Hongrie, Pologne, pays de Baltes, etc. Je les ai tous faits. Et j'ai vu comment ce régime est tombé. Il est tombé parce qu'il avait tellement menti, mais tellement menti, que la confiance n'existait absolument plus. C'est-à-dire, les courroies de transmission ne se faisaient plus, les gens n'y croyaient plus, les gens ne travaillaient plus, et le petit groupe de personnes qui dirigeaient n'y croyaient plus non plus et répétaient les mantras sur l'avenir radieux du socialisme, qu'on peut trouver aujourd'hui exactement pareil, pour se tenir chaud idéologiquement, alors qu'ils savaient que ça tenait plus et que ça allait se casser la figure. On est exactement pareil. Et à un moment donné, ça s'arrête parce que le pays ne produit plus. Les gens trichent, ils volent, ils bidouillent, mais on ne travaille plus parce que ce qui passe à travers cet arbre, c'est la confiance.
Et le sens.
Voilà. Et s'il n'y a plus de confiance, s'il n'y a plus de sens, ça ne passe pas. Et à un moment donné, c'est obligé de changer. Mais il faut être prêt ce jour-là. Si Waleza n'avait pas été là, il n'aurait pas pris le pouvoir à ce moment-là. Donc c'est ça, je pense, qui est l'essence de notre combat. Et je pense que le fait de dire ça, c'est susceptible de rendre du courage aux gens parce qu'on ne leur dit pas « Attends, c'est toi qui vas faire tomber cette espèce d'énorme chape de plomb qui est au-dessus de toi. » Non, elle va tomber. Mais est-ce que ce jour-là, tu seras là et tu seras prêt.
Alors, cher Lara, est-ce qu'on est en France 2024, dans la Pologne de 81 ?
Je pense que plutôt, pour moi, la Pologne 81, c'est quelque chose de virtuel. Je pense plutôt à l'URSS de 85-86. On est en plein...
Dans le pays de l'Est, les 80, quoi.
C'est le fameux principe. Hein. Ils mentent, nous savons qu'ils mentent, ils savent que nous savons qu'ils mentent. Ils savent que nous savons qu'ils mentent. C'est cette boucle,
et
en fait.
Et pourtant, ils continuent à mentir.
En fait, on est dans cette boucle-là. Et effectivement, on est à la veille de quelque chose. Mais cette veille peut durer 10 ans, comme elle peut durer un jour, comme elle peut durer 3 mois. Mais quelque chose va se passer. On sait tous
que quelque chose... Et plus 10 jours ou 3 mois ?
En 85, j'aurais dit plus 20 ans. Or, ça s'est passé en espace de 5 ans. L'Empire s'est écroulé complètement, complètement. Mais ça, on ne pouvait pas savoir en 85. Or, on savait qu'il va se passer quelque chose. Et par contre, je vais revenir sur votre appel presque pendant ces élections à s'abstenir. Je suis contre parce que je pense qu'un idiot qui vote influence plus notre vie que deux intellectuels qui ne votent pas. Donc faites attention à ça, allez voter.
Paul Marie, faut répondre.
Parce que là c'est vous laissez le champ libre.
Petite attaque, là.
Oui, mais pensez à ce que vous perdez. et ce pourquoi le système veut que vous votiez, vous perdez la conscience de la vérité de cette construction européenne, c'est qu'elle est totalitaire et dénuée de tout ressort démocratique. Et vous perdez donc l'analyse qui vous porterait à agir autrement que par les élections. Ce que je souhaite, c'est que nos énergies souverainistes, ou toutes les énergies, on a vu surgir par exemple à l'occasion des Gilets jaunes, ou plus récemment à l'occasion des révoltes paysannes, s'emploient différemment. Et je vais alors vous choquer jusqu'au bout, chère madame. Je crois que ce qui fait l'histoire, c'est beaucoup moins les élections que la violence. Et la violence est plus créatrice.
Il faut revenir à la violence en politique ?
Oui.
La violence...
Je suis persuadé de ça. Je pense que rien ne se passera sans violence. Je sais que c'est très difficile à dire, je sais qu'on est installé, pardon madame, dans le train-train des élections, puis on aime ça, il y a un aspect ludique, alors qui est sur la liste de qui a dit quoi, les pourcentages dans les derniers sondages, etc. On s'amuse.
C'est triste à dire, pendant... c'est la droite, mais la gauche n'a jamais dit autre chose que ça, et ça n'a eu l'air de choquer personne.
De quoi ?
La violence. De dire que c'est la violence qui fait la politique.
Oui, c'est excellent, excellent François, merci beaucoup d'apporter de l'eau à notre moulin commun, parce que je crois que la violence est plus créatrice, et le point de déréliction dans lequel nous sommes arrivés, et d'ailleurs dans lequel s'engouffre l'Europe, qui n'est plus qu'à la périphérie du monde, confère le livre de François Martin, Le basculement du monde, nous rendra de toute façon nécessaire la violence. Et je pense qu'il faut penser la violence. Penser les termes de la violence, aujourd'hui, Mike, c'est pour moi presque plus important que de préparer les élections. Voilà.
Chère Lara ?
Moi, je pense que la violence européenne de 2002, en termes d'élections et le passage au second tour de Jean-Marie Le Pen, était bien plus impactante pour la société française que la violence, même avec les gilets jaunes. Ben, la société a pris conscience qu'il y avait... une France qui
elle a pris conscience de rien du tout.
Qui souhaitait autre chose.
L'assassinat politique de Fillon,
c'est et la réaction de...
Exactement, l'assassinat de Fillon
politique de Fillon pendant la campagne électorale,
une violence
inouïe. Une violence peut s'exprimer par l'élection, justement.
Mais là, ce n'est pas une élection, c'est on a invalidé le principal...
Regardez l'histoire, c'est la violence qui fait l'histoire,
candidat de l'opposition, en lui mettant une justice politique sur le dos, 15 jours avant le scrutin. Moi, j'étais effaré, fou que l'on manifeste pour Fillon. Moi, je pensais que tout le monde, enfin, j'aurais voulu que la France entière descende dans la rue en disant il n'est pas question qu'on nous vole le processus politique.
C'était ce qu'on a fait un peu au Trocadéro le 5 mars 2017.
Oui, mais on l'a fait pour défendre.
Qu'est-ce que t'en penses, cher Philippe ? La violence en politique, on doit revenir à ça ?
Non, moi, je ne suis pas d'accord parce que si ça arrive, il faut en faire en sorte d'être prêt, c'est ce que vous disiez. Quel que soit ce qui arrive, en tant que militant politique, quel que soit le niveau qu'on a, il faut faire en sorte d'être prêt. Mais compter sur la violence, non. Alors quand c'est dans un régime totalitaire ou dictatorial comme la Pologne... Il y a encore des élections. Je vais prendre un exemple, justement. Alors c'est un espoir qui sera peut-être déçu, mais l'Argentine, qui est au fond du trou, a voté pour un candidat qui est complètement... perpendiculaire à tout ce qu'il faisait jusqu'avant, qui est Javier Milei, donc c'est un État complètement socialiste, étatiste, qui s'est effondré. L'Argentine, dans l'entre-deux-guerres, jusqu'au milieu des années 50, avait un niveau de vie comparable à celui des pays européens.
C'est ça.
Et dès qu'ils se sont mis à voter pour Perón, et donc à faire du socialisme, ils n'ont fait que s'effondrer petit à petit. Il n'y a jamais eu vraiment de crise, mais ils se sont effondrés. Et là, ils ont voté pour Javier Milei, qui a une politique qui peut relever le pied. Alors, est-ce qu'il va réussir ? C'est pas sûr. J'avais aussi cet espoir quand Bolsonaro a été élu au Brésil. Finalement, il n'a jamais eu vraiment de majorité au Congrès pour lui permettre de faire passer ses réformes. Mmh. Et puis, à la présidentielle, il a été vaincu. Alors, il a gagné. Il y a six régions au Brésil. Il en a gagné 5. Et puis, celle de Lula, où il y avait beaucoup de votes électroniques, il l'a perdu. Et ce qui fait que globalement, il a perdu l'élection. Il s'est plaint du fait qu'il y avait beaucoup de votes électroniques. Et en cela, il a été jugé et déclaré inéligible.
Et aussi, ce problème des élections, c'est qu'elles sont trafiquées.
Donc, il a été... Voilà, donc
Bolsonaro, les États-Unis, elles sont trafiquées.
C'est peut-être ce qui arrivera à Milei, mais Trump a été élu en 2016. Il va peut-être être réélu cette fois. Je vais y voir un signe d'espoir. Donc, dans un cadre démocratique, il peut y avoir des solutions. ça ne veut pas dire qu'il faut uniquement s'appuyer là-dessus, mais il peut y avoir des... Si Trump repasse là en novembre, bah, je dirais, vive la démocratie américaine.
C'est quand même fort ce que dit Paul Marcouteau.
Si Ravaille Millet réussit à redresser l'économie et qu'il est réélu, mais je dirais, vive la démocratie argentine.
Trump sera de toute façon à la tête d'un empire et d'un empire qui veut nous broyer, mon cher. Donc ne célébrons pas le Saint-Trump.
Mmh. Mais c'est quand même fort ce que dit M. Paul Marcouteau. Voilà, quelqu'un qui est haut fonctionnaire, ancien fonctionnaire, qui est directeur de publication du Nouveau Conservateur, qui est un intellectuel, et qui parle de violence. Ça veut dire qu'on est dans une période même pré-révolutionnaire.
Non, ce qui me gêne, c'est que la violence, c'est toujours l'extrême-gauche.
De Gaulle citait beaucoup cette... pardon, je ne veux pas monopoliser, je vous laisse tout de suite. Mais De Gaulle citait beaucoup la fameuse phrase grecque, Pantépaeton, c'est-à-dire la guerre est matrice de tout, qu'on se comprenne bien, parce que je pense qu'il va y avoir des gendarmes qui vont m'attendre à la sortie de ce studio pour... c'est un crime d'appeler à la violence. Je n'appelle pas à la violence. Je dis qu'elle est inhérente à l'histoire des hommes, surtout quand les modes de régulateurs de la violence se sont évaporés.
C'est ça.
Ce qui est exactement le cas aujourd'hui. Et qu'il faut donc simplement y être prêt et essayer de faire en sorte qu'elle soit instruite de telle sorte qu'elle ne déborde pas. Évidemment, je suis plutôt opposé à la violence.
Bien sûr, mais on avait compris.
Je connais l'histoire.
58, c'est un processus violent.
Oui.
Oui, c'est un coup d'État.
D'une certaine façon.
Il y a des coups d'État très salvateurs.
Bien sûr.
Charlara.
Oui, non, mais je voulais réagir, mais de toute façon, je maintiens qu'il faut aller voter parce que ce n'est pas par hasard que ce thème des élections européennes, alors que c'est une élection intermédiaire sans grand intérêt normalement pour les Français habituellement, revient au centre des débats parce que aujourd'hui la Macronie a besoin de faire un score recevable. Et il faut faire tout pour que ça n'arrive pas.
Pourquoi elle a besoin de faire un score recevable ?
Parce que je pense que l'avenir que voit Macron, c'est au sein de la communauté, enfin à la tête
de l'Union européenne.
Oui, de l'Union européenne. Et donc, il ne peut pas avoir un mauvais score. Et il aura un bon score s'il y a une forte abstention. Le calcul est très simple. Donc, il faut aller voter. Allez voter,
il faut aller voter Bardella, en gros.
Moi, je suis contre le vote utile. Je suis au premier tour. C'est justement, j'adore cette démocratie française qui offre un panel invraisemblable au premier tour, où on peut aller voter pour
n'importe
qui.
C'est le mot.
Oui, mais donc je considère que c'est tout à fait, ça va de gens complètement fantasques aux gens très sérieux, mais on a vraiment le choix.
La liste Francis Lalanne, peut-être.
On a le choix, allez voter, mais surtout, allez
voter.
Je vais rajouter quelque chose pour compléter un peu ce qu'on a dit, en citant un auteur que je cite très souvent, mais qui malheureusement pas traduit en français, qui est un américano-turc qui s'appelle Timur Kuran et qui a écrit un livre qui s'appelle Private Truth, Public Lies, qui n'est pas traduit. J'ai essayé de le faire traduire par Michel Tribala parce qu'elle traduit beaucoup de livres. Elle traduit très bien l'anglais, mais elle n'a pas voulu. Elle m'a dit, c'est pas mon domaine. Et ce que dit Timur Kuran, c'est que les gens préfèrent en général être en paix avec leurs voisins plutôt qu'en paix avec leur conscience. C'est-à-dire qu'ils préfèrent mentir pour ne pas se mettre en désaccord avec leurs voisins. Donc ils se promènent en permanence avec des masques. Ils ont des masques noirs ou des masques blancs selon la couleur. Et leur peau est l'inverse de ce que dit le masque. Et à tel point, dit Kuran, que même dans l'isoloir, on vote comme ses voisins. Parce qu'on s'auto-bride soi-même tellement pour ne pas risquer de dire « Ah ben, voilà ce que je pense, il faut que je vote Le Pen, par exemple, mais alors je me fais massacrer par tout mon entourage, etc. » Ou autre chose. Hein. Donc, et ce qu'il dit, c'est qu'on est typiquement dans les systèmes pré-révolutionnaires parce qu'il y a des gens qui sont les résistants et qui, eux, de toute façon, ne voteront jamais à l'extérieur, différemment de ce qu'ils ressentent à l'intérieur. Parce qu'ils sont construits comme ça. Tout le monde peut voter noir. Moi, je voterai blanc, ou le contraire, parce que je suis fait comme ça. Et ce sont ceux-là qui agrègent, à un moment donné, le changement, parce que les gens sont de plus en plus mécontents, mais ils continuent à porter les masques. Donc, en fait, la majorité, par exemple, tout le monde porte des masques blancs, mais la majorité, elle est noire, et elle est de plus en plus, mais ça continue à voter blanc. Mais à un moment donné, il y a un type qui dit « C'est noir, regardez, c'est noir !» Et paf, 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 tout se retourne. Et la révolution amène des gens complètement différents dans un système complètement différent. on s'en est pas aperçu, et pourtant, ça s'était creusé depuis longtemps, à l'inverse de ce qu'on pensait.
Donc,
évidemment, c'est pas publié, on n'en parle pas parce que ça met un coup à la démocratie quand même assez... mais ça complexifie l'idée du choix démocratique d'une façon très intéressante.
À propos du choix démocratique, les choses ne sont pas... Là, pour le coup, on n'est pas en apesanteur. La démocratie a beaucoup, beaucoup de bons. Mais à condition que les conditions soient respectées. Évidemment, la première, c'est une information minimale de tous les citoyens. On en est très loin. Les instruments d'information sont des instruments de désinformation et de propagande, et qui sont pris d'ailleurs pour des éléments... pour des instruments d'information, c'est-à-dire que le mensonge règne. J'en profite pour dire qu'un des derniers numéros du Nouveau Conservateur s'appelle « Quand l'Occident se noie dans la mer des mensonges ». Nous vivons, Philippe le disait tout à l'heure, dans une marée de mensonges, vous le disiez aussi, une marée de mensonges, presque tout est mensonge. Regardez ce qui s'est passé à propos de la Russie, on pourrait le dire, à propos du Covid, c'était invraisemblable, cet amoncellement de mensonges. Et cette première condition de l'information n'est pas respectée. Il y a une autre condition qui n'est pas respectée. Et ça, c'est plus grave, parce que ça vient de nous, y compris des souverainistes. Et vous comprendrez mon désabusement, Mike. Il faut que les responsables qui endossent une cause, en l'occurrence l'indépendance de la nation, soient à la hauteur de cette cause.
Voilà.
Et là, nous n'y sommes pas. Celui qui n'a pas vu, comme je ne l'ai pas vu, mais c'est Marie-France Garraud qui me l'a rapporté, le 20 septembre 1992, j'étais à New York à l'époque auprès de la plume du secrétaire général de l'ONU, il s'est passé quelque chose de bouleversant qui dit tout des 30 années qui suivent. Le soir de l'échec du non, et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, si je peux y revenir, c'est bien, sinon tant pis. Le non a perdu, mais le oui a perdu aussi. Je vous signale qu'il y a eu un coup de force. Il n'y a pas eu une majorité de votants en faveur du traité de Maastricht. Donc il est vicié dès son origine, à cause des 3% d'abstention. C'est une erreur.
Ah, des bulletins blancs
Oui, il y a eu tellement de bulletins blancs qu'il y a eu grosso modo 49% de oui, 48% de non et 3% de blancs. Sans parler, évidemment, de la minorité des oui par rapport aux votants, par rapport au collège électoral.
Parce que vous dites que
pas par rapport aux inscrits, mais aussi par rapport aux votants.
En tout cas, donc, c'est une imposture. Beaucoup qui nous regardent ne le savent pas.
Mais je l'ai écrit 100 fois, mais ça ne sert à rien. Vous savez, la démocratie, c'est aussi « cause toujours, tu m'intéresses ». C'est pas loin de la dictature, ferme ta gueule, ça revient à peu près au même. Ce soir-là, pour revenir à cette anecdote, qui m'a quand même beaucoup troublé, parce que j'ai quand même joué le jeu, j'ai servi Séguin, mais Séguin et Pasqua, à demain la France, rue de Marignan, le soir de la victoire, prétendue victoire du oui, il sablait le champagne. Ouf, on a perdu. C'était une victoire pour leur carrière. Quelques mois plus tard, Charles Pasqua devenait ministre de l'Intérieur de Balladur et Philippe Séguin devenait président de l'Assemblée nationale. Je n'ai rien à dire, moi-même je rentrais de New York pour devenir la plume de Philippe Séguin. Donc j'ai joué le jeu. Mais vous voyez ce degré de...
C'est une trahison.
Bah oui. Il y a un manque de grandeur, de hauteur, d'honnêteté. Y compris chez nous, c'est ça qui me fait le plus de peine. Chez ceux qui lèvent le drapeau national... Qui moi, m'a détruit de l'intérieur, on peut dire. Et ça vicie beaucoup, je pense, le regard que je peux porter sur la démocratie.
Cher Philippe, là, vous voyez ce témoignage de Paul-Marie Couteau, on le sent en plus désabusé. Je suis très surpris, d'ailleurs, parce que là, ça prend une tournure un peu inédite.
Je vous parle à cœur ouvert.
Ben oui, là, pour le coup, là, il n'y a pas de politiquement correct. Hein. Là, on est en plus en direct. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Mais même si les conditions sont difficiles, même si les élections sont difficiles, sont viciées, moi je préfère toujours faire le pari de la liberté d'expression, de la démocratie, parce que la violence, c'est toujours l'extrême gauche qu'on profite, c'est eux qui sont organisés pour en profiter, les coups d'État...
Mais la violence peut accoucher d'un ordre meilleur.
Bah, je n'ai pas trop d'exemple.
Malgré des transitions.
Ouais, mais est-ce qu'elle n'est pas inéluctable
dans l'histoire, j'ai pas trop.
Est-ce qu'elle n'est pas inéluctable?
Alors on parle du coup d'État de Gaulle, bon, oui, en 58...
Okay. Oh, c'était pas très violent.
C'est midi. Bon, voilà. Mais les révolutions, les coups d'État violents, c'est l'extrême gauche. Eux, en France, ils sont organisés. S'il y a vraiment le foutoir complet en France, lutte ouvrière avec les quelques milliers de militants, plus l'extrême gauche et les Black Blocs qui prennent le pouvoir.
Oui, mais est-ce que ce n'est pas...
Nous, en face,
mais
vous donnez plutôt raison à Paul-Marie Couteau quand vous dites ça, parce que vous dites si eux sont prêts à ça, il faut que nous y soyons... Si on exclut ça de notre référentiel a priori, on sera toujours perdant. Parce que regardez, nous, il faut respecter la règle.
Oui. Regardez la violence des gilets jaunes. Elle a été, alors elle, à mon avis, très créatrice. Plus que...
Complètement récupéré par la gauche.
Alors non, justement, au départ, c'était des non-violents, et ils se sont fait infiltrer par l'extrême gauche, et là, ils sont des non-violents, et ils ont perdu le soutien populaire.
Exactement. Toi qui étais gilet jaune, qu'est-ce que t'en penses?
Ben, je pense qu'au départ, c'était un mouvement patriotique. Il y avait, enfin, c'était vraiment les Français qui voulaient s'exprimer, et ils ne voulaient pas aller vers la violence. En fait, c'est l'État qui a été d'abord violent avec les gilets jaunes, les premières manifestations. Zéro manifestation de violence envers la police, et c'est la police qui était violente. Mais si je...
Non, c'était pas envers
la... J'étais dans les manifestations, j'ai des témoignages à foison. Hein, sur, j'ai la première personne qui est éborgnée le 24 novembre, on ne sait pas du tout
dans quelles conditions. Non, je parle d'une autre violence. Je parle... Attendez. Il
faut s'entendre sur le mot
violence. Mais la récupération est
faite par la gauche. Ta définition de ce mot violence.
C'est pas forcément le sang qui coule.
Parce que souvent, moi, je veux dire, quand on parle de choses, on parle de révolution ou de, je ne sais pas moi, ou de crash, des choses comme ça, on a en tête le cinéma Hollywood, Mad Max, ouais, des choses comme ça.
Mais trop au cinéma.
Non, mais je vais vous dire une chose. Par expérience... Je vous le dis, depuis que je fais des émissions, ça fait des années, et j'en ai fait quelques milliers, je vois que les auditeurs prennent certains mots dans la logique du cinéma. Mais vraiment, hein,
oui, mais je peux vous le dire. Je veux bien croire. Alors, donc, il faut préciser, la violence, c'est toute forme qui entrave l'ordre public, elle n'est pas nécessairement sanglante. J'ai le souvenir des premiers actes des Gilets jaunes. Par exemple, nous bloquions... Enfin, j'ai été très excité pendant les Gilets jaunes. Je vivais à ce moment-là en Charente. Mes voisins étaient très étonnés de voir tout à coup le châtelain, parce que j'avais acheté un château, devenir un révolutionnaire en chapeau. Quand on a bloqué des péages d'autoroutes... Moi, j'ai bloqué avec ma voiture la Nationale 10. Heureusement, elle était grande, parce qu'il fallait que je mette beaucoup de choses dans mon coffre. Je me mettais en travers. Ça pouvait mal tourner, d'ailleurs. Quand nous avons incendié devant l'hôpital de Girac à Angoulême, les Charentais me comprendront, des effigies et puis pas mal de foin, de grands feux. Il y avait une atteinte à l'ordre public. Eh bien, elle ne m'a pas choqué. Au contraire, j'étais plutôt partisan. Donc, ça ne suppose pas, en effet, c'est en effet la gauche, les Black Blocs, qui sont une milice de M. Soros, qui ont envenimé les choses. Évidemment, la violence est retournée contre nous. Mais il y a des violences ponctuelles et, à mon avis, fructueuses.
Jean-François Martin.
Oui, un mot et après je... J'ai une chose à développer un petit peu. Sur cette question de la violence, nous sommes quand même, au départ, je dirais des animaux humains, pour reprendre un terme qui ne devrait pas être employé.
Non.
Au départ, dans la prise de pouvoir, il y a toujours la violence. Parce que la prise de pouvoir est toujours le résultat d'un duel, on l'oublie. Chez les mâles, il y a un duel au départ. Et les femelles se rangent. Je ne fais pas de comparaison avec le système des hommes, mais et le groupe se range autour de celui qui a montré qu'il était le plus fort. Donc en fait, le système démocratique tel qu'on le présente aujourd'hui, en tout cas le système du suffrage universel, parce que pour moi, le système tel qu'il existait au moment de la Troisième République n'est pas un système démocratique, c'est un système qui arrange les forts, en fait. Selon la phrase de Lacordaire qui dit « Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, c'est la liberté qui opprime et la loi qui libère ». Donc on cherche une liberté qui opprime et qui arrange les forts et qui désarrange les faibles. Donc en fait, dans tous les pays où je suis allé, la centaine de pays, à chaque fois, ce n'est pas les pauvres qui demandent la liberté, jamais. Eux, ils demandent la loi et la protection contre les puissants. Ce sont les puissants qui veulent un système... sous-entendu démocratique, mais plus large, parce que ça leur donne plus de pouvoir. C'est eux qui veulent...
Combien vous faire interdire.
En Tunisie, juste après la Révolution, j'ai demandé aux chauffeurs de taxi avec lesquels je discute tout le temps, ils m'ont dit, mais nous, on veut pas ce système-là où il y a tous les pourris qui rentrent dedans. On veut une bonne dictature.
Une bonne dictature.
Une bonne, pas une dictature, une bonne dictature, c'est-à-dire quelqu'un de fort à la tête qui nous protège
comme en Russie.
Contre les exactions.
Enfin, un peu un truc
oui,
semblable à la Russie.
Mais oui, on pense, parce qu'on est français, la liberté, etc., que la liberté est la valeur première que les peuples demandent. Mais c'est pas vrai. Et ce qu'ils veulent, c'est la protection, c'est ça qu'ils demandent. Nous, on a vendu notre système à tout le monde, mais c'est un système bourgeois, je suis désolé. Quand on va voir, quand tu vas en Afrique ou n'importe quoi, quand le type risque de se faire racketter en sortant de chez lui, ce qu'il veut, c'est la police. Il veut la police. Il veut la police qui ne se fasse pas acheter. C'est ça qu'il veut. Il veut. C'est pour ça qu'ils ont plébiscité Rawlings, qu'ils ont plébiscité Bourguiba. Parce que c'est des types, Bourguiba, qui était un socialiste, n'a jamais été attaqué, mais il a fait tirer il a fait assassiner les opposants. Et ça gênait pas les Tunisiens. Donc, je pense qu'il faut être... C'est plus compliqué
l'arabe
que
rebondir.
Ce
qu'on pense. Je vais rebondir, parce que depuis tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai été coupé plusieurs fois, mais là, allez-y, je tiens à garder ma
coupe
part.
Pas madame, arrête d'être misogyne, on coupe pas madame.
Je vais vous faire quand même réagir par rapport à l'actualité en Turquie, où le parti de Erdogan perd deux villes, Istanbul et Ankara, et on a des manifestations énormes, monstrueuses, qui proclament que la Turquie restera un pays laïque. Donc ça va à l'encontre de ce que vous dites, c'est-à-dire c'est vraiment un peuple qui peut décider, et il va contre le pouvoir et contre la force. Parce qu'Erdogan, on ne peut pas dire l'inverse,
j'ai
c'est une force.
Je n'ai pas dit que ça, c'était illégitime. Donc c'est un choix. Ce qui dit qu'il est illégitime, c'est quand la verticalité du pouvoir n'existe pas et qu'il est entre les mains de toutes les oligarchies et les salopards qui pillent l'État, comme c'est le cas dans pas mal de pays.
Vous savez, ça fait partie de la pensée chrétienne. Je suis catholique et romain. Il y a un devoir d'insurrection. Hein, et l'insurrection,
mais
elle est violente.
Monsieur Couteau, où vous étiez
chez Saint Thomas d'Aquin, par exemple.
On laisse parler, madame.
Vous avez été aux affaires. Vous êtes aujourd'hui dissident et vous nous dites que vous allez à la violence.
Je n'ai jamais
mais si, vous avez été la plume de Séguin,
vous
avez été trois fois député européen, et vous, tout à coup, vous nous parlez de violence. Or, vous avez été au suffrage, vous avez été face aux électeurs, même si c'est...
Oui, mais j'ai essayé, si vous voulez. Je constate que ce sont des impasses. Voilà. J'ai bien placé pour savoir.
C'est votre expérience.
Et oui, et je pense... il y a de bonnes et mauvaises violences. Je pense que de temps en temps, les rois de France, par exemple, ont provoqué des violences. J'ai envie de prendre un exemple. Alors là, pour le coup, je vais vraiment sortir en miettes, mais ça ne fait rien. C'est la Saint-Barthélemy. C'est voilà une violence, cher Philippe. Elle a sauvé l'État. Elle a sauvé l'État.
Il n'est pas d'accord.
Et elle a sauvé la France, la Saint-Barthélemy, de violences civiles qui eussent été pires. Ce qu'a fait Charles IX était indispensable. Le Premier ministre de l'époque, protestant, était lui-même en train de préparer un coup d'État. Et on imposait, au moment où les guerres de religion étaient à vif, on imposait un État protestant, avec l'aide de l'Angleterre, des Pays-Bas, à un peuple catholique. Catherine et Louis ont sauvé l'État en appelant au massacre de protestants. Voilà. C'est un drame, l'histoire. Et j'ai d'autres exemples à vous donner, mais je ne veux pas non plus faire...
C'est la révolution russe. Hein.
Et puis ce qu'a fait Poutine il y a 2 ans... Il fallait qu'il continue à compter les balles et à voir l'OTAN s'installer autour de sans riposter. Il a provoqué une guerre, Poutine.
Ah oui.
Je pense que cette...
Alors ça, c'est autre chose. Je
pense que cette guerre qui a fait d'épouvantables et qui continue à faire d'épouvantables souffrances était nécessaire. Vous croyez que la souffrance n'est pas inhérente à l'aventure humaine?
Si, mais si on se réduit à ça et si on est trop fataliste...
Ben, je ne suis pas fataliste, le problème, c'est que je pense qu'il faut prendre les moyens, y compris...
Vous n'êtes pas d'accord, Lara ou Philippe? Si? J'ai l'impression que Paul Marie et François, ils vous ont choqué. Là, j'ai l'impression que là, vous êtes quasiment muet. Je ne sais pas ce qui se passe.
Vous avez commis une imprudence terrible en invitant François et moi. Notre duo est imparable.
Justement, c'est pour ça. Là. Non, c'est, non, il faut discuter, il faut parler.
C'est quand même intéressant comme débat.
Bah oui, bah évidemment.
On est au cœur d'une question importante.
Là, on sort du politiquement correct.
Vous devez être content. Là, vous en avez pour votre
antenne.
Mais oui, il faut sortir du politiquement correct, mais avec des solutions.
C'est une solution.
Mais moi, je pense que c'est une solution à partir du moment où on est prêt. Mais regardez le fameux forum de Mediapart là, où la fille elle dit mais si l'extrême droite arrive au pouvoir, est-ce qu'on est bien armé?
Elle parle de violence.
Elle parle de violence ouvertement. Je pense que effectivement, si on est capable d'amener au pouvoir nos forces, faut être capable de les défendre derrière. Cette violence-là, je suis d'accord. Après, avec une violence de pacotille, c'est-à-dire d'aller jeter du fumier devant la préfecture, ça, je pense pas que ça sert à beaucoup la cause. Nous, les Soviétiques, quand on est sortis manifester, on est sortis face aux tanks. Les tanks étaient rentrés dans toutes les capitales. Donc, on est allé face aux tanks. Et les soldats étaient dans une incapacité à agir face aux gens qui étaient leurs semblables. Enfin, c'était leur famille en face. Ils n'ont pas pu tirer pour ces raisons-là. Et le pouvoir n'avait même pas la capacité de donner cet ordre parce qu'ils savaient qu'ils seraient complètement défaits par l'inexécution de l'ordre.
Je ne crois pas.
Vous ne pensez pas, mais moi j'y étais.
C'est parce que...
J'avais 15 ans, mes premières manifestations, je les ai faites face au temps.
Comment il s'appelle l'ancien conseiller de Gorbatchev qui l'a dit? Il a dit le gouvernement central de l'URSS a dit au pays, ou c'est Védrine qui me l'avait dit, avait dit que s'il y avait une insurrection et qu'il y avait un problème, il ne serait pas soutenu par l'État soviétique. Donc à partir de ce moment-là, ils savaient qu'ils étaient livrés au chaos dans leur propre pays. Donc ils savaient que la force n'était pas derrière eux. C'est pour ça qu'ils n'ont pas tiré.
Mais ils ont rentré les tanks.
Oui, ils ont rentré les tanks, mais ils savaient qu'ils ne seraient pas soutenus par
l'État. Tout le goudron de la capitale de Erevan était déchiqueté parce qu'ils sont passés avec des tanks dans les rues pour arriver au centre.
Il ne s'agit pas non plus de faire l'éloge systématique
ils pensaient que juste en amenant des tanks, ils allaient arrêter l'insurrection, sauf que ça ne l'a pas arrêté. Et je m'en rappelle d'une petite, c'est une petite fleur qu'on a plantée dans le temps qui passait en lui disant nous on est avec toi mais tu ne tires pas dessus quoi.
La violence,
on était capable, on savait qu'à ce moment-là on était capable de mourir mais pas reculer. C'est cette violence-là que je plébiscite, et pas le fumier devant la préfecture.
Bon, c'est une violence symbolique, le fumier. Quelquefois, elle est tout de même plus acceptable que les violences physiques.
Vous voyez les agriculteurs qui tombent en émoi dès que le Premier ministre se déplace vers eux, ces gens-là n'étaient pas prêts à la violence pour défendre leur...
Non, mais je ne fais pas du tout un éloge de la violence. Nous sortions de toute l'humanité et la constitution même d'un État, toute politique, et Dieu sait qu'elle est nécessaire et que nous devons la louer de ce point de vue-là, est un refus de la violence. Bon, mais elle est première.
Oui.
C'est une rituelle. Il faut la ritualiser, il faut la limiter, mais il faut ne pas l'invoquer et la déclarer mauvaise.
Il faut y être prêt.
Mais il faut y être prêt. Voilà. Quand je dis qu'il n'y a que la violence qui peut nous sortir de là, c'est par une analyse de l'histoire. Et quelquefois, il faut la provoquer pour éviter...
La violence ou un effondrement de l'État ?
Des violences moindres.
Une implosion de l'État, c'est-à-dire qu'on a un déficit des dettes...
L'effondrement de l'État, Mike, c'est une violence et c'est une source d'énormes violences. Je pense très souvent, quand je parcours les rues de Paris, que je vois des mendiants en nombre de plus en plus grand, ça me transperce tout le temps, je me dis, mais que seront les années qui viennent quand les impayés... Les loyers sont tels que les expulsions sont systématiques, faute de quoi d'ailleurs les valeurs immobilières vont complètement chuter avec tout ce que ça entraîne.
C'est là qu'on verra ce qu'on a dans nos
combien de gens vont se retrouver dans la rue sans secours. Ça aussi, il faut s'y apprêter. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On n'invoque pas. Il faut être prêt à des situations d'une grande violence qui sont déjà faites.
Justement, cher Philippe, toi qui es économiste, en 9 ans, j'ai regardé le graphique du Parisien, en 9 ans, la dette publique a augmenté de 1120 milliards.
Oui, mais ça, ça reste...
En 9 ans, cette année, là, le déficit il va être gigantesque encore, les recettes sont moindres, et des dépenses sont encore plus importantes. Peut-être que d'ici 3 ans, ça augmentera peut-être encore de 500 milliards. Est-ce que ça, c'est tenable? Est-ce que l'État, de ce fait, ne peut pas, justement, imploser de lui-même?
Ça reste abstrait, parce que c'est des chiffres. Ce qui compte, c'est les conséquences concrètes sur les gens. Le fait que le pouvoir d'achat recule depuis le début des années 2000, ce qui explique, ce que j'expliquais dans mon livre...
Si les gens ne payent plus le chômage, ils ne payent plus les retraites...
Ce qui explique en grande partie les gilets jaunes. Le problème, c'est qu'à force de chuter comme ça... Bon, moi, je ne dis pas que... La violence fait partie de l'histoire. Ça, on est d'accord là-dessus.
Mais beaucoup de gens, pardon Philippe, mais beaucoup de gens ne veulent pas le savoir et considèrent que c'est fini.
Alors ça, non.
Il y a une partie de nos contemporains qui disent maintenant la modernité est telle que la violence est évaporée. Oui. C'est la pire des attitudes.
Absolument. Quand on regarde sur le temps long, il y a des périodes de calme entrecoupées de périodes brutales qui peuvent être négatives positives. Mais dans ce cadre-là, mais ça ne veut pas dire qu'il faut devenir fataliste et dire les élections ne servent à rien. Voilà. Par exemple, les européennes.
Donc je parlais des européennes.
Tout à fait secondaire des élections. Ça prend une heure d'aller voter.
Je suis d'accord.
Plus le score de Renaissance sera haut, plus ça confortera les escrocs qui nous gouvernent. Donc, voilà.
Tu crois que rien ne les empêche d'aller au bout de leur puissance ou de leur impuissance.
Voter pour le parti animaliste.
C'est mon message.
Le fait d'aller voter, ça fera baisser le score de Renaissance.
On vient de poster.
Maintenant, si Renaissance fait moins de 15% ou 10%, ça ne changera rien à la politique de Macron. On est d'accord. Mais il sera un peu plus humilié.
Oui.
C'est comme la baffe
15% qu'il avait pris 15% des votants, c'est-à-dire 8% des inscrits.
C'est comme la baffe qui s'est pris.
Ça change
la
quand même.
Qui s'est pris au salon
mental,
de l'agriculture.
C'était
plaisant à voir. Il a été humilié.
Oui, mais ça a servi à quoi?
Ça change pas grand-chose. Il déclare la guerre à
l'étranger. C'est totalement inconcevable de voir que le président de la République, en particulier en Russie, peut se prendre une gifle ou peut se faire mettre dehors par comme ça. C'est dans les pays qui considèrent que la verticalité du pouvoir est le fondement même de l'État, le discrédit de Macron est
énorme.
Total.
Et donc
de la France,
bravo aux paysans qu'on fait ça. Voilà.
Dans tous les cas, sur le sondage qu'on vient de poster, sondage là sur le chat. Il y avait déjà 300 personnes qui ont voté en 2 minutes. Pensez-vous que la violence est la clé pour sauver la France? 70% disent oui. Ça veut dire qu'ils sont d'accord avec vous.
Mais je trouve ça triste parce que la violence, ça veut dire qu'aussi on abdique une partie de.
Je vais me présenter aux élections.
La parole.
Je vais me présenter aux élections.
On abdique en partie la parole et l'intelligence pour aller dans la confrontation dure. Alors, une fois, je le dis, s'il y a vraiment une période de violence, c'est l'extrême gauche qui tire les marrons du feu. Donc je dis attention.
Il ne faut pas que ce soit. Qu'il en soit ainsi.
Les antifas, les Black Blocs, ils s'entraînent depuis des décennies et ils bénéficient d'une moinsétude totale du ministère de l'Intérieur. Nous, si on fait une petite ministre qui va tirer au tir à l'arc dans les forêts, les mecs vont se faire arrêter et ils vont faire un nom de tôle. Donc. Regardez la manif qu'il y a eu pour la mort de Thomas. Ils sont allés manifester, même pas avec des armes à feu, même pas avec des barres de fer. Ils n'ont frappé personne. Ils ont tous été arrêtés et ils ont fait plusieurs semaines de prison. Certains s'inscrivent au casier pour un poète fonctionnaire ou autre. Bon, je veux dire, voilà. Donc, constituer des milices de droite, c'est un rêve complet. Dès qu'on bougera le petit pied, on sera arrêté. C'est ça le problème aussi.
Est-ce que vous pensez à quoi, vous?
Oui. Je pensais à une phrase de Védrine qui disait « nous sommes construits comme une civilisation d'herbivores au milieu des carnivores ». Et l'Europe est en train de disparaître à côté de ça, à cause de ça, précisément parce qu'elle n'a pas intégré ce que je comprends être la définition de la violence que tu exprimes. De pacifique, on est devenu des pacifistes.
La définition est large.
On est devenu des pacifistes. Voilà, c'est ça. Dans ce que je comprends de ce que dit Paul-Marie, c'est que, en fait, ce qu'il ne veut pas, c'est que nous soyons des pacifistes. Et on peut être des gens qui défendons le système démocratique pour ce qui nous permet de ritualiser la violence naturelle des rapports politiques, sans pour autant être des pacifistes qui considèrent que si les autres prennent le pouvoir par la force, non, nous, on ne le fera pas. Voilà. Et ça, ça ne marche pas.
Charles Lara ?
Moi, je pense qu'il y a un moment, justement, dans le destin d'un peuple, où, quand il n'a pas encore tout perdu, mais qu'il a... parce que tout perdu, c'est la dépression, il n'y a plus rien qui motive les hommes, etc. Mais arrivent des moments où, en fait, il sent qu'il peut tout perdre s'il n'agit pas. Et là, l'homme est capable de beaucoup de choses et un peuple est capable justement de s'unir et se lever sur beaucoup de choses.
Ah, j'aime beaucoup ce que vous dites.
Mais il y a quelque chose solution, de très fort dans cette notion de violence. Moi, j'observe, parce que d'un côté, j'ai déjà connu cette violence, j'ai connu la guerre, j'ai connu vraiment le démantèlement d'un pays à travers justement les manifestations, etc. Il y a deux sortes de violences. Il y a une première violence qui est juste démonstrative. C'est ce que fait les Black Blocs, ce que font, mais elle n'est pas dans la durée. Parce qu'on ne peut pas mourir...
Si, ils ont mis la main sur l'université française. Est impossible
à
quelqu'un de droite de faire une conférence dans l'université française désormais, récemment.
Demandez à l'Uni ou à la Cocarde ou à la Cocarde étudiante, ils se sont cassés la gueule. Donc, aujourd'hui, elle est là. Hein. Voilà. La Cocarde étudiante, elle se fait casser la gueule.
Mais là, ils
ont mis la main sur l'université.
Dans l'impératif qui sera un moment, je pense que le rendez-vous de la nation et du peuple français... Justement, des gens comme vous, qui ne soupçonnez même pas en vous cette force-là qui a fait que vous aimez ce pays, vous ne voulez pas le voir disparaître, vous ne voulez pas qu'il soit gommé par je ne sais quelle notion européiste ou mondialiste, etc. Vous trouverez une ressource qui sera au-dessus de tout ce que font ces Black Blocs qui s'entraînent, etc. Et elle est capable d'amener justement l'ordre à travers cette violence qui sera sans vraiment le patriote fervent qui est capable d'aller affronter son destin en disant je suis prêt à mourir pour mon pays, il n'a pas son pareil. À gauche, vous ne trouverez pas ça. Ils ne l'ont pas. Et parce que c'est une idéologie basée sur des pacotilles.
Ce qui pourrait, c'est l'armée en pouvoir. Okay, à ce moment-là, les Black Blocs, ils rentrent dans leur tanière. C'est l'armée qui prend le pouvoir.
C'est la conclusion. Okay. Je vous remercie parce qu'il faut qu'on tienne aussi les délais. Hein. En
tout cas, merci. Je peux dire un mot, juste un mot, Mike. Pardon, excusez-moi.
Petit mot.
Vous avez effleuré une solution.
Il faut tenir
la partie. Pardon, François. Non, j'ai le temps. Vous avez effleuré une solution. En effet, de situation de violence, encore une fois, la violence, il faut la prendre de façon très large. C'est pas simple, c'est pas toujours sanglant. Il y a des violences symboliques qu'il faut savoir manier. Surgit à ce moment-là, ce qui nous a tellement manqué, je l'ai dit en filigrane dans le propos liminaire, c'est une incarnation. Quand une situation se tend, une incarnation paraît, et Cicéron est théoricien de ça, au milieu du désordre, quand un homme a la parole au sens propre de la parole, l'ordre revient. Aujourd'hui, personne n'a la parole. De Gaulle a eu la parole en 58, il a eu la parole en 40. Et c'est les situations que nous ne devons pas nous cacher, d'extrême tension même, quelquefois, avec des violences, y compris des violences sanglantes, qui peuvent faire surgir la solution, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'homme providentiel. Je crois beaucoup à l'homme providentiel. Et c'est ce que j'attends, c'est ce que nous aurions dû trouver en notre sein depuis 30 ans, bien entendu.
Est-ce qu'il existe, d'ailleurs, cet homme ?
Est-ce qu'en 1939, quelqu'un attendait le général de Gaulle ? Personne.
Bah, c'est vrai. Cher François.
Oui, et j'ai quelques idées que je te dirai.
Terminé avec...
Ah, vous avez des idées. Donc ça veut dire qu'il existe ?
Je crois.
Terminer avec une note un peu positive. Quand on voit le sondage avec 70% des gens qui disent qu'il n'y a que la violence qui peut nous sortir de là, je nous retrouve dans une situation qui me fait beaucoup penser à celle qu'a dû affronter le général de Gaulle quand il est revenu au pouvoir en 58. Et il y a beaucoup de gens, en fait, qui ont cet attachement profond à la France qui leur fait mal quand ils voient qu'elle est à terre. Qui ont en même temps un esprit d'indépendance où ils ne veulent pas passer sous la coupe des Américains ou de personne. Qui en même temps sont très choqués par le fait qu'il n'y a que de la petite politique basse et qui veulent qu'on aille dans les hauteurs. Qui veulent en même temps qu'on retrouve l'âme de la France et sa culture. Et nous avons décidé avec Paul-Marie et avec Alain Juillet de lancer une initiative à ce sujet-là pour essayer de remettre à jour, je dirais, la doctrine gaulliste ou la doctrine souverainiste, puisque en fait, De Gaulle parle de la France éternelle, donc en fait, c'est la France dont on parle, et d'essayer de faire, d'aller pêcher chez les hommes d'affaires, chez les économistes, chez les penseurs, chez les géopoliticiens, chez les gens qui parlent d'énergie ou d'autres, des profils qui sont gaullistes, en fait, sans forcément même le savoir, mais qui sont en mesure de nous aider à construire ou à reconstruire cette espèce de doctrine, en attendant le jour où, comme je disais tout à l'heure avec Solzhenitsyn. Et je suis heureux qu'on en ait discuté avec vous et avec Nicolas, et que vous ayez accepté. Alors, on discute encore le format et la périodicité, mais je pense qu'on est en mesure d'apporter quelque chose si, une fois tous les 15 jours, une fois par mois, je ne sais pas, on amène des personnalités qui disent « voilà ce qu'on peut faire pour se redresser ». Pour redresser la France.
C'est vrai qu'on est beaucoup dans le constat, voilà. Mais pas beaucoup dans les solutions.
Voilà, c'est pour ça que je voulais dire ça. Voilà, pardon.
Cher Philippe, on n'est pas trop dans les solutions, c'est vrai. Enfin, ici, mais général, dans les grands médias, même dans les partis politiques, on est surtout
un grand homme, c'est une solution.
Et ça, on peut le faire, même si c'est pas faux. Pas le grand homme, parce qu'on se prépare, c'est ça que je veux dire, pardon.
Ah, mais il faut un grand homme. Et ce qui nous a manqué à nous depuis 35 ans, c'est de ne pas avoir un grand homme. À nous, souverainistes.
Il y a peut-être trop de solutions, justement. Chacun propose sa solution. Tous les partis prétendent avoir leur solution.
Donc. Mais tiens, j'ai une dépêche que je reçois. Éric Zemmour se livre. Il dit « Si le Rassemblement national abandonne son programme socialiste, je suis prêt à rejoindre Marine Le Pen pour les européennes et pour 2027. » Ça va d'arriver. Qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, on peut commenter ça.
C'est pour corriger ce qu'il a dit avant-hier, il a dit l'inverse.
Ah bon? Bon, alors d'accord.
Car que reproche-t-il à Marion Maréchal? C'est justement d'avoir tendu la main. Ouais. Alors évidemment, ça a été mal interprété, y compris dans son parti, alors il corrige le tir. Il est rusé. C'est un vieil ami, Éric Zemmour, je ne jette pas la pierre. Mais c'est pas une nouvelle, mon cher Mike. Ah,
bon. Est-ce qu'ils sont pour l'indépendance de la France?
C'est ça ma question. Quand on arrive à 6% dans les sondages, on réfléchit à s'allier à quelqu'un. Ça, c'est malheureux, mais c'est un petit peu le constat. Maintenant, par rapport à l'homme présidentiel, en 99, 98 même, la Russie n'imaginait pas avoir un jour un homme providentiel.
Poutine.
Et Poutine est arrivé. Mm. Et il n'avait pas du tout la carrure d'un homme providentiel.
Oui, 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 tout à fait.
C'était un petit bonhomme issu des services, un petit peu, on appelait ça khazaïstvennik, c'est-à-dire quelqu'un qui s'occupait de l'intendance. Donc, il était un bon gestionnaire.
Il était investi par l'histoire, magnifié par l'histoire.
Il faut les circonstances, c'est ça.
Il a échappé
bien
sûr
du marionnettisme. Parce que s'il n'y a pas de circonstances, c'est pas d'homme providentiel.
Évidemment.
Oui, mais il y avait aussi l'intelligence de sa part.
Il faut les créer, les circonstances, y compris en forcissant la situation.
À terme, il avait bien dit, j'ai fait la plus grande opération d'infiltration de l'histoire des services secrets. Il l'a dit. C'est-à-dire, c'était une infiltration. Il s'est fait passer pour ce qu'il n'était pas. Il a été pris pour ça.
C'est ça.
Donc, l'homme providentiel, peut-être qu'il est déjà pas loin, mais je suis sûre qu'il est déjà né et qu'il est prêt.
De toute façon, avant que la marionnette n'échappe aux marionnettistes, c'est une marionnette.
Oui, mais par exemple, les Anglais, ils n'attendent pas d'homme providentiel. Et leur société, les Anglo-Saxons, les Anglais, les Américains... Leur société fonctionne. Est-ce que nous, en France, on a besoin d'hommes providentiels forcément pour nous guider?
Nous
n'avons pas la même civilisation. Hein.
Oui. C'est vrai, c'est pas faux. Enfin, quand même proche, on est quand même proche des Anglais.
Vous savez, la Manche, c'est beaucoup plus large qu'on le croit. Et le Rhin aussi, du reste.
Ils ont un impondérable qui est la royauté, et puis voilà, le reste...
Non, mais c'est des pays qui peuvent être en crise, les Anglo-Saxons, mais pour le coup, force est de constater qu'ils remontent toujours.
Les États-Unis sont première puissance mondiale. Donc...
Non, les Anglais, bien sûr que si, les Anglais.
Combien de temps, cher Philippe?
Non, mais les États-Unis sont première puissance mondiale. Donc c'est assez facile de se maintenir quand on est largement devant tous les autres en termes de puissance, etc. Bon, même si on fait des erreurs ici ou là.
Mais est-ce qu'il y a ce débat qu'on a? Est-ce qu'en Angleterre, il y a ce type de débat?
En Angleterre,
je suis pas sûr.
Oui, il n'y a pas besoin.
En Angleterre, de toute façon, personne n'a mesuré l'apport inouï de la monarchie.
Bien sûr.
Aussi faible soit-elle, aussi dépourvue de pouvoir direct soit-elle, Regardez un pays comme la Belgique, elle est explosée. N'y a-t-il pas eu de roi en Belgique? La Belgique éclatait en au moins deux, peut-être trois.
C'est ça.
Ça n'a pas été plus mal pour la France que récupérer la Wallonie.
La royauté de la Wallonie. Mais... l'inégalité et de la faire accepter.
Donc c'est quoi,
le roi, le roi représente la justice. Donc on se dit, on vit dans des conditions exceptionnellement injustes dans la société anglaise, avec des différences de revenus qui sont énormes, mais malgré tout on l'accepte parce qu'on se dit le roi représente quelque part un espoir de justice qui n'aura peut-être pas lieu maintenant, mais qui reste en essence parce que c'est le roi. Je pense que nous, en voulant créer la République parce qu'on voulait l'égalité, en fait, on a exacerbé l'inégalité et on l'a rendue insupportable. À cause de la République.
Donc vous qui êtes des gaullistes, vous sortiriez là? Est-ce que la solution, peut-être, ce serait sortir de la République, de la 5e République? La 5e et de la République là, tout court.
Mais on n'est pas dans la 5e, ça fait longtemps qu'on
est. Mais on n'est même pas dans la République. Vous savez, la République, elle a été pensée au XVIe siècle par Jean Bodin, et Jean Bodin estimait qu'elle ne tenait pas debout, la preuve en a été faite. Ensuite, la Première République a fini dans la terreur, la Deuxième a fini par un coup d'État, la Troisième par une déroute sans pareil, la Quatrième République a fini dans le ridicule, et la Cinquième République finit dans le rien absolu. Bon, donc les républiques, ça ne marche pas. Et Bodin disait qu'aucune république, enfin, il faisait plus que le dire, il l'a élaboré, Dieu sait que le corpus est large et quelquefois obscur, il n'y a pas de république possible sans un roi pour la couronner. C'est exactement ce que je pense.
C'est pour ça que De Gaulle avait institué une monarchie républicaine et qu'elle est morte le jour où on est passé au mandat à 5 ans.
Ouais. Parce que cette république n'est pas une république.
Le roi républicain n'a plus la durée avec lui à partir de ce moment-là. C'est
cette république n'est pas une république. La république suppose que l'intérêt général, s'il est incarné, c'est beaucoup mieux. Comme je disais tout à l'heure, l'emporte sur les intérêts particuliers et sur les hégémonies extérieures. Et sur les barbares aussi. Je reprends mon triptyque, il y a aussi l'aspect culturel. Nous ne sommes plus en République de ce point de vue-là. Ni en démocratie, ni en République. Nous sommes plus proches d'un système anarchique, en réalité.
Un système anarchique ?
Anarchique,
oui. Oui, je pense, oui, ça fait un moment. C'est pour ça que les gens...
Sans ordre, anarchique.
C'est pour ça que 70% des gens disent « vive la violence ».
Ils ne disent pas « vive la violence », François. Non. Ils disent qu'elle est inévitable et qu'il faut qu'il se passe quelque chose pour qu'une restauration de la République et de la démocratie soit envisageable.
Oui, oui.
À nous de l'instruire.
Je suis d'accord. Oui.
Merci à vous, cher monsieur, dame. On va passer à la chronique de Philippe Erlin. Mais avant ça, les petites annonces.
Votre masque.
Tous les trois mois, une nouvelle loi vient détruire petit à petit vos libertés individuelles. Très prochainement, vous aurez le pass carbone, la surveillance généralisée sur le moindre de vos mouvements et la fin de la propriété privée. Si vous ne voulez pas faire partie de ce futur-là, il est encore possible d'en sortir. Géopolitique Profonde a travaillé sur ce nouveau protocole pour assurer votre protection personnelle et patrimoniale et vous assurer d'avoir toujours un coup d'avance pour être prêt avant qu'il ne soit trop tard. Cliquez sur le premier lien en description pour découvrir la stratégie confidentielle de Géopolitique Profonde.
Merci à vous d'être si nombreux avec X. Nous sommes 5000 à regarder. Vous êtes 5000 à nous regarder. Merci à vous pour cette confiance. N'oubliez pas de vous abonner à la lettre de Géopolitique Profonde, celle du mois d'avril, regardez, avec Vladimir Poutine. Comme auteur, Laurent Ozon, Jean-Maxime Corneille, Philippe Erlin et le général Delawarde. Enfin, pour nous soutenir, n'hésitez pas à aller sur le Tipeee Stream, faites un don en haut du chat. Et après un don, vous aurez une petite surprise, vous allez voir. À toi, cher Philippe, donc ta chronique.
Pour terminer, alors, une parenthèse.
Vas-y.
Pour clore sur le débat précédent, moi, je pense une partie de la solution, ce serait le référendum d'initiative citoyenne.
Ah, mais ça, il faut prendre le pouvoir.
Voilà. Non, oui, d'accord.
Mais oui, c'est les votations.
Et voilà.
Exactement.
Et ce serait une vraie
solution. Les votations, c'est plus utile que les élections.
Mieux que la monarchie, à mon avis.
C'est une solution non violente.
Vive la votation et questions sur les élections.
Voilà, non violent, démocratique.
Très bonne, très bonne observation, Philippe.
Alors donc, pour ma chronique, alors je vais revenir à des choses plus matérielles. Enfin, on parle quand même de dette. Et ça a aussi une façon de parler de la souveraineté, parce qu'on parle de la monnaie. C'est le fait que dans le bulletin du mois de mars de l'Agence France Trésor, qui est une division à Bercy qui gère la dette de la France, on apprend que la Banque de France possède 28% de la dette de l'État. Les autres possesseurs de la dette, c'est les sociétés d'assurance françaises, hein, 9,5%, donc ça c'est l'assurance vie. Les banques, 7,7%, c'est les banques qui font des produits d'assurance vie, les OPCVM, 1,6%, et les non-résidents, les investisseurs étrangers, européens, moyen-orientaux, américains, 53,2%. Alors pourquoi est-ce que la Banque de France possède plus d'un quart de la dette de la France? Eh bien ça s'est fait dans le cadre des rachats de dettes qui ont été faits depuis la crise, alors c'est fait au niveau de la Banque Centrale Européenne, c'est consolidé dans le budget de la Banque Centrale Européenne, mais c'est chaque banque centrale qui concrètement achète les dettes de ses États. Et ça a été fait après la crise du subprime et surtout après la crise du Covid avec les confinements qui ont coûté extrêmement cher aux États. Et pour éviter que les États ont fait exposer leur déficit, ils ont dû émettre beaucoup d'obligations, de dettes. Pour éviter que le taux d'intérêt n'explose à la hausse, eh bien, la Banque Centrale est venue pour les racheter. Voilà. Le problème, c'est que l'effet qu'on souhaitait éviter est quand même arrivé, parce que tout cet argent, il faut bien comprendre que quand une banque centrale achète une obligation d'État, elle crée de l'argent. Ex nihilo. Voilà. Le budget de la Banque Centrale Européenne était de 1 000 milliards d'euros en 2000. Il est à 9 000 milliards en 2022. C'est de l'argent qui est créé. Vous faites ça, vous êtes faux monnayeur, vous allez en prison. Voilà. Mais Christine Lagarde, elle a le droit. Voilà. Donc c'est de l'argent qui est créé, mais sans contrepartie, parce qu'il n'y a pas de biens ou de services qui ont été produits. Et ça, l'histoire le montre, quand on crée vraiment beaucoup d'argent, et bien ça se transforme en inflation. Donc on a eu l'inflation que l'on voit encore aujourd'hui. Et comme l'inflation a monté, et bien les taux d'intérêt ont aussi monté. Quoi.
Voilà. Et après, en violence.
Voilà. Alors après,
en violence.
Ça, c'est possible aussi après. Mais en tout cas, l'inflation et les taux d'intérêt sont montés par les banques centrales pour essayer de calmer l'inflation, ce qui marche un petit peu en ce moment, et pas plus que ça. Alors, ce qui est intéressant aussi dans le fait que la Banque de France possède plus d'un quart de la dette, c'est que l'actionnaire de la Banque de France, bah, c'est l'État. Donc, on pourrait dire que l'État se doit de l'argent à lui-même, quoi. Et qu'il pourrait, d'un trait de plume, l'effacer. Et s'il y a effectivement un certain nombre d'économistes, alors plutôt classés à gauche, mais plutôt des économistes qui disent bah, il n'y a qu'à effacer cette dette, c'est 28%, on fait une croix dessus, c'est de l'argent qu'on se doit, ça tourne en rond, on supprime, et ça fait un quart de la dette qui disparaît. Bon, techniquement, c'est tout à fait possible, même si ce serait pris comme un défaut en termes d'image, de réputation de la France, ce serait assez problématique. Mais, techniquement, c'est possible, mais à la limite, allons plus loin. À ce moment-là, pourquoi est-ce que la Banque de France n'achèterait pas la totalité de la dette émise par l'État? Comme ça, on aurait pu s'embêter à la vente des investisseurs étrangers. Et puis, allons même plus loin, si la Banque de France peut faire vraiment de la planche à billets, bah, on n'a qu'à supprimer les impôts, les taxes, les charges sociales. Et tous les besoins de l'État et du système social sont fournis par la Banque de France qui balance des tonnes d'argent. Bon, ça, on sait, l'histoire le montre que ça ne marche pas et que ça... Ça se termine en hyperinflation, comme le Venezuela, comme les Zimbabwe, comme l'Argentine aussi. L'Argentine, voilà. Oui. Et en fait c'est impossible. Quoi.
Le Brésil.
Ce qui est intéressant de noter, c'est que dans le bulletin de l'Agence France Trésor, ce n'est pas écrit explicitement que c'est la Banque de France qui possède cet argent aussi. Ils en ont un peu honte. Ils mettent la catégorie, c'est, je cite, « autre » entre parenthèses « français ». Ils ne mettent pas Banque de France, ils disent que c'est une catégorie. Alors pour 28%, en général, quand vous faites un graphique, s'il y a 5%, vous mettez autre parce que vous ne pouvez pas détailler. Quand vous avez un camembert et qu'il y a 28%, vous mettez autre, sans autre précision, en parenthèse français, sous-entendu, ce n'est pas les investisseurs étrangers, c'est chez nous. Bon. Et en fait, il y a un peu une honte du gouvernement, le gouvernement ne le dit pas, les médias ne le disent pas aussi, vous remarquerez, ça c'est une information qu'on ne voit pas dans les médias. Il y a une sorte de honte, parce qu'en fait, c'est quoi? Bah, c'est de la cavalerie financière. C'est comme si une entreprise qui fait des pertes sollicite un emprunt de la part d'une de ses filiales. Ou si vous avez des problèmes d'argent, vous demandez de l'argent à votre cousin. C'est un système, voilà, c'est de la cavalerie. Et ça mène à l'effondrement, en général. Donc, voilà. Donc le problème, pour terminer, le problème, c'est pas de savoir si on peut annuler ces 28%. Techniquement, à la limite, ça pourra se faire. Le problème, c'est d'arrêter cette cavalerie financière qui nous mène à l'abîme, qui nous mène à l'inflation et qu'il faudrait plutôt retrouver l'équilibre des comptes publics. Mais on peut vraiment se demander si ce n'est pas déjà trop tard. Quoi. Voilà.
Merci beaucoup, cher Philippe. Mais je voudrais que là, vous soyez précis sur un mot. Oui. Vous avez parlé d'effondrement et je voudrais que vous définissiez ce que signifie ce mot effondrement. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on donne des mots, des concepts, les gens... ont une vision qui est autre que celle que l'on pense. Voilà, ils n'ont pas la même définition que, en réalité, que les mots du Larousse. Mmh. Voilà.
L'effondrement, c'est que les investisseurs perdent confiance dans la dette de la France.
Et qu'est-ce qui se passe ?
Donc ça pourrait être les investisseurs étrangers, là bientôt, les agences de notation vont noter la dette de la France au risque d'être dégradée. Alors ça ne veut pas dire automatiquement que les investisseurs étrangers vont arrêter d'acheter la dette de la France, mais ça va susciter une défiance. Et puis si tous les Français qui ont une grosse partie de leur épargne qui est dans l'assurance vie commencent à se dire, déjà ils constatent qu'aujourd'hui l'assurance vie, ça leur apporte 2-2,5% par an quand l'inflation est officiellement à 3%, en réalité un peu au-dessus. Si les Français commencent à se dire, ben, je vais vider mes comptes d'assurance vie pour plutôt acheter des actions ou de l'or ou du bitcoin ou autre, ou de l'immobilier ou je ne sais quoi, ça va poser des problèmes aux sociétés d'assurance qui seront obligées de vendre leurs obligations avant terme et donc à prix cassé. Et ça, c'est ce qui s'est passé pour la Silicon Valley Bank qui a été obligée de vendre les obligations qu'elle avait dans son bilan quand ses clients ont retiré leur argent. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver pour
l'assurance vie. Les conséquences, il peut y avoir un 2008.
Alors voilà, alors après c'est une crise de financement, c'est-à-dire, alors, mais ceci dit c'est déjà prévu par la loi, il y a la directive européenne, il y a au Conseil de l'assurance vie en France, à Bercy, qui dit que si trop de Français demandent à retirer leur assurance vie, le Haut Conseil peut dire, c'est interdit.
Donc il risque rien,
c'est-à-dire, alors là ce serait intéressant de voir la situation des Français, notamment retraités et macronistes, qui vont retirer leur assurance vie et on leur dira non, parce qu'il n'y a plus d'argent. Ça peut être assez intéressant de voir leur réaction.
Moi, ce que je veux savoir, parce que j'interviewe des dizaines et dizaines d'économistes, et vous avez tous à peu près un peu le même discours, mais vous ne dites pas concrètement les conséquences pour les gens.
Est-ce que, mais un effondrement, si tu peux plus payer ton épargne.
Est-ce que ça peut être la France peut être le Liban d'aujourd'hui ?
Alors, le Liban, on a assisté à quoi ? La fermeture du jour au lendemain de toutes les banques. C'est quand même un peu touchy pour la France aujourd'hui, mais comme j'ai dit, c'est bloquer l'assurance vie, c'est possible, c'est déjà dans la loi, et bloquer les retraits bancaires, il y a la directive BERD qui date de 2013 et qui est dans le droit français depuis 2016, une banque en situation de faillite, c'est-à-dire qui fait face à beaucoup de retraits, peut dire on bloque les retraits et tous les comptes de plus de 100 000 euros, on les ponctionne.
Donc ça, c'est possible.
Ça, c'est possible. C'est dans la loi française. Voilà.
Donc ça signifierait, pour le coup, voilà, une violence.
Alors, ça, Lara. C'est une violence concrète sur votre épargne, sur votre argent. Mais, vous ne pouvez plus y avoir
accès. L'effondrement, moi, j'ai vécu dans ma vie, donc l'URSS, il y a eu plusieurs réformes monétaires. Par exemple, il fallait rendre tous les billets de 100 et les remplacer par d'autres nouveaux billets. Donc, et c'était limité par nombre de billets, par personne.
Ah bah
c'était
voilà.
Excellent. Ah bah. Mais j'ai connu quelque chose, c'est une anecdote, ça prendra quelques instants.
Les tickets de
rationnement ? Non, enfin, ça aussi, mais mon premier mari, en fait, il touche son héritage, qui sont 30 000 roubles. 30 000 roubles, il faut réaliser, en URSS, on avait un salaire autour de 140 roubles. Donc, son père était écrivain, il avait des droits d'auteur, etc. Et donc, il y avait un temps pour toucher la succession. Au moment où il avait obtenu cette succession, 30 000 roubles, il présentait 5 à 6 appartements, plusieurs voitures. Enfin, c'était ça la valeur. Et au moment où il a touché l'argent, quand il a été enfin libéré par la banque suite à plusieurs réformes, etc., il a pu acheter un chauffe-plat. C'est ça,
oui, parce qu'il y a eu l'hyperinflation.
Voilà, c'est vraiment concret.
Mais justement,
c'est très concret avec un sac.
J'ai le même type d'histoire en Pologne, où mes grands-parents, mon grand-père est médecin, il faisait du noir, et beaucoup même. Et au final, en l'espace de 2 ans, l'hyperinflation est venue, vous passez, je sais pas, moi, on va dire 1 million de zloty.
Oui.
Et le 1 million de zloty vaut 10 zloty.
J'ai vu ça.
C'est fréquent dans l'histoire. Oui. Les Français ne sont pas à l'abri. Par quel miracle les Français seraient-ils à l'abri de ce genre d'histoire qui sont
voilà, donc, très concret,
donc,
là.
C'est de l'hyperinflation. On subit déjà de l'inflation qui est quand même déjà extrêmement dure pour beaucoup de gens, parce que c'est les prix alimentaires, l'énergie qui sont des dépenses qu'on peut difficilement diminuer un petit peu et qu'on ne peut pas reporter dans le temps. Quoi. Voilà, donc il y a beaucoup de Français qui souffrent déjà aujourd'hui de ça. L'hyperinflation, c'est encore pire.
Comment un Français, cher François, comment en France on réagirait dans une situation pareille ?
Bien malin qui pourrait le dire.
Très mal, parce que les Français sont inconscients des secousses de l'histoire.
Très mal.
On a, par exemple, dit des bêtises dans les années 90, après l'effondrement du monde soviétique. On a assuré que c'était la paix pour toujours. La preuve est faite du contraire. Mais on veut croire que tout se passera toujours bien. Et la preuve, c'est qu'on a diminué dans les années 90 l'effort de faire de défense et qu'il faut se rattraper très vite. On va même pas y arriver parce qu'on n'a même plus les moyens budgétaires ou d'emprunt, justement, mais pour y arriver. Difficile. Il fallait pas baisser la garde comme on l'a fait dans les années 90. J'avais écrit un livre en 97 qui s'appelait L'Europe vers la guerre. C'était pas mal vu. Mais à ce moment-là, tout le monde disait mais non, c'est fini, on n'a plus besoin d'armée. L'irénisme était total. Il y a en Occident, d'une manière générale, mais en Europe, et peut-être en France plus qu'ailleurs, je ne sais pas, un esprit de nounours qui va nous secouer beaucoup, parce qu'on sera pris, beaucoup de gens sont pris au dépourvu.
Je peux essayer.
C'est ce qui m'inquiète le plus.
À ta question, moi je pense, je reviens à cette idée de retour au gaullisme, que en fait les gens qui disent il faut lutter contre l'immigration, contre etc., la guerre de civilisation, etc., ils se trompent complètement parce que en fait la première idée qui vient, si on a du bon sens, c'est de se dire il faut déjà que j'ai la main sur le volant de ma voiture et il faut que j'ai l'essence dans mon moteur. Donc la première chose à faire si on veut anticiper ce genre de choses, c'est de retrouver notre souveraineté, c'est-à-dire notre richesse économique. Et je pense qu'une des façons de le faire, c'est sans doute de sortir du pacte européen de l'énergie qui nous coûte ça, oui. 48 milliards de dollars par an. 48 milliards selon c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, où les Français sont pris à la gorge comme ça, on donne 48 milliards de dollars à des intermédiaires? Moi, le pays que je connais le mieux, c'est le Nigeria. Et là, il n'y a personne qui se met de l'argent dans la poche. C'est comme le nuage de Tchernobyl, là. Le monde entier est corrompu, mais ça s'arrête à la frontière de la France, parce que la France n'est pas corrompue. Attends. Donc, la première chose, c'est ça. Et puis, l'autre chose, eh ben, c'est de reprendre le pouvoir. On n'a aucune raison d'être aujourd'hui rançonné par les Américains qui nous obligent à faire une guerre dont on n'a pas besoin et à nous vendre leur gaz au prix très élevé ou à nous obliger à délocaliser nos industries, etc. Et on peut faire toute la liste, mais je pense qu'avant de dire il faut prendre telle et telle réforme, il faut d'abord se dire qu'est-ce que je dois faire pour reprendre le pouvoir chez moi et pour piloter ma propre voiture. C'est ça, à mon avis, le réflexe auquel je penserais par rapport à ça.
Alors, il y a un autre bon réflexe qui consiste, et ça, nous devons le faire, c'est pas venu dans notre conversation, mais je pensais qu'on y viendrait, c'est identifier clairement l'ennemi. Je pense que le général de Gaulle a très bien, Carl Schmitt, enfin, les grands politiques bien savent sûr. Que la première chose à faire, c'est d'identifier l'ennemi. Nous n'avons pas parlé de l'ennemi.
L'Américain ?
Mais l'Empire, évidemment. J'ai peur que l'élection européenne dont nous parlions en commençant cette conversation soit recouverte de monceaux de propagande sur le thème du sauveur américain, puisque nous allons célébrer, comme vous le savez, le débarquement des anglo-saxons en Normandie. Ça va être des hymnes à l'Amérique sous couvert de faire passer l'OTAN, l'atlantisme, etc. Là, il faut que nous réagissions. Là, il y a une résistance à faire. Je ne dis pas appeler à la violence ou faire sauter. Je ne demande pas qu'on fasse sauter je ne sais quel élément des cérémonies qui vont se... Encore que... qui vont nous accabler tout au long du mois de mai, à la fin du mois de mai, au début du mois de juin. Mais vous savez, le général de Gaulle, toujours lui, parlait à propos de ce débarquement d'une nouvelle occupation du pays. Il dit ça en 63.
C'est ce que c'est que l'Amgote.
Et il y avait l'Amgote. Non, mais il le redit encore en 64, bien quand sûr. Il dit à Perfitte, toujours en 63 et en 64, parce que Perfitte revient à la charge, il faut, mon général, réfléchir avant de refuser, parce qu'il avait dit dès l'abord, d'aller commémorer le débarquement. Il dit non, on ne commémore pas le débarquement, on commémore l'invasion des anglo-saxons et le prélude à une nouvelle occupation. Vous vous rendez compte ? mâchez pas ces mots, le prélude à une nouvelle occupation. Je ne dis pas qu'il mettait cette occupation sur le même rang.
On l'a eu.
Et mais on l'a eu, on l'a depuis 80 ans, et on va la célébrer. Et parce que nous ne sommes pas capables d'identifier l'ennemi. Et il va très très loin, l'ennemi. Je vous quitterai là-dessus, parce que c'est une de mes hanties, je le disais en commençant. Quand un système oligarchique, mettons les États-Unis, mais c'est une nébuleuse, État ou État profond, assorti de toutes sortes d'oligarques qui s'en font les relais, a mis la main sur un système dominant, qui est celui de l'Europe, enfin, le système dominant de l'Europe, c'est-à-dire les gouvernements européens. C'est fait depuis des années. La plupart des chefs d'État sont à la botte, ou même créés de toutes pièces. Regardez Barroso, regardez Macron, par exemple, même Madame Merkel, elle a été créée de toutes pièces par les États-Unis. Madame Meloni. C'est ça. Et ce n'est pas par hasard que je cite Madame Meloni. Ou bien ceux qui sont passés par les cabinets et les banques qui dirigent l'Union européenne. Ils ont le contrôle du système dirigeant européen. Qu'est-ce qui leur manque ? De contrôler l'opposition à ce système.
Voilà.
C'est-à-dire nous.
Et les peuples.
Et c'est allé très loin. Le cas de Meloni, que je n'ai pas cité par hasard, est très grave. En 2009, je ne me suis pas représenté au Parlement européen parce que Philippe de Villiers avait tout à coup inventé qu'il fallait s'en remettre à un Américain, un industriel américain, qui avait pour seul client un certain Decan Ganley, irlando-américain, pour seul client les trois armées
Gold
américaines.
Schmitt,
ça s'appelait Libertas. Et ce Decan Ganley devait chapeauter tous les mouvements souverainistes. Moi, je me suis échappé. Mais il payait même les députés qui refusaient l'investiture de l'association Libertas, qui était américaine.
Oui.
Ils ont commencé depuis longtemps à mettre la main sur les souverainistes. Ils y sont arrivés pour une grande partie.
Les souverainistes sont infiltrés par les Américains.
Regardez comment Marion Maréchal, si vous voulez que je mette les pieds dans le plat,
oui.
est entre les mains de Mme Meloni, laquelle Meloni a demandé à Mme...
Monsieur Bardella aussi, j'imagine.
C'est pire. Bardella, c'est pire. Le Front National, le Rassemblement National est de nouveau, il y a eu des histoires dans les années 80 avec Moon, etc., entre les mains de l'Empire. Pourquoi ? Parce que l'Empire, quand il domine le système en place, a aussi besoin de dominer et d'infiltrer l'opposition.
Position, bien sûr.
Et Marion Maréchal Le Pen est emblématique. En Finlande, enfin, c'était il y a deux mois, un mois ou trois semaines, je ne sais plus, c'était caricatural. Il y avait trois candidats à l'élection présidentielle finlandaise et le débat s'est fait sur le degré d'intégration de la Finlande à l'OTAN, où elle est en train d'entrer. Eh bien, c'est le candidat qui était partisan de la plus grande intégration, donner toutes les facilités possibles et imaginables à l'armée américaine, tout ce qu'on demandait l'OTAN. C'est ce candidat qui l'a emporté. Marion Maréchal l'a félicité.
Oui.
Madame Meloni l'a félicité.
Et si on fait le tour des candidats...
Bardella a sorti cette énormité il y a quelques jours à propos des banques. Philippe a dû tiquer quand même, parce que c'est énorme. L'idée de Macron de non seulement geler les avoirs russes, mais les convertir en financement de l'effort de guerre de soutien à l'Ukraine, c'est invraisemblable. D'abord, c'est un vol pur et simple, déjà. Mais c'est même pas penser qu'un jour... les investisseurs du monde entier vont réfléchir avant de mettre ne serait-ce qu'un dollar ou un euro dans les banques françaises en se disant qu'ils peuvent nous les shipper pour des raisons politiques. Et Bardella a prouvé ça. Qu'est-ce que vous voulez faire avec des dirigeants
Et Marion Maréchal aussi.
Maréchal
est aussi d'accord pour utiliser les intérêts générés par les...
Alors, il y a Marion Maréchal qui est prise en main par les Américains. Monsieur Bardella aussi. Monsieur Dupont-Aignan qui est Young Leader.
Nicolas est beaucoup plus... Non, là, c'est pas vrai. Nicolas est très averti sur... Il est resté profondément gaulliste et très averti sur les atteintes à l'indépendance nationale. Nicolas Dupont-Aignan, c'est pour ça que j'ai essayé de les réunir. Je viens d'y passer un mois et demi. Ça n'a pas marché. Ça a éclaté dimanche dernier. Ils auraient pu faire 5% et dépasser 5%. Mais avec Jean-Frédéric Poisson, avec Asselineau, on n'y serait pas arrivé, mais au moins Florian Philippot, là, ce sont des gens qui sont très convaincus de l'enjeu. Mais je n'en dirai pas autant du Rassemblement National. Même je dirais le contraire.
Et là, on a vraiment un élément clivant qui permet de dire la notion de l'indépendance. Voilà. Parce que ceux qui disent « Ah oui, mais moi, je veux lutter contre et contre », après, tu leur dis « Les États-Unis, on sait très bien qu'on doit rester leur ami. » Là, si tu veux, c'est comme le gars qui dit « Moi, je veux être indépendant dans mon pays d'Afrique » et qui dit « Bon, je veux quand même garder de très bonnes relations avec notre ancien colonisateur. T'es sûr qu'il fera jamais rien de son pays, celui-là ?»
Il va y avoir un test avec les cérémonies du débarquement.
Cher Lara,
qui va s'y opposer?
Je voulais surtout réagir par rapport aux 53,2% des
Et pas sur les Américains.
Non, mais c'est extra-européen. Donc, qui sont ces extra-européens? Est-ce qu'il y a un détail? Est-ce que les Américains
on n'a pas l'information
pour nous la apportent dette, ouais. leur confiance justement dans cette dette? Parce que, encore une fois, si 28% peuvent être annulés par la France d'un coup de voilà
entre bah ceux-là, non.
bon cousin la banque ceux-là non et comment ils vont réagir, est-ce qu'ils vont pas vouloir tout de suite de vendre
non mais c'est sûr que le gel enfin ce qu'on fait avec pour l'instant uniquement les intérêts générés par les fonds russes
oui, parce
gelés.
Que cela Van der Leyen
de toute façon le simple fait
n'ont pas trouvé oui. moyen de saisir
oui, mais de toute façon le simple fait d'utiliser les intérêts ouais. c'est déjà une remise en cause du droit de propriété qui est fondamentale et qui va être dévastatrice pour la crédibilité de la place européenne et de la France. Quoi.
Et
le fait que toutes les forces politiques représentatives soient d'accord, hein,
oui.
Conquête, et là, RN et évidemment macroniste, et, c'est
et oui.
effarant.
Et oui.
C'est effarant. Et oui.
Justement, j'ai et une oui. question. Là, c'est des intérêts de 2023, mais qu'en est-il des intérêts de 2022? Ça a été déjà fait?
Non, mais c'est les intérêts globaux depuis
ça n'a pas
depuis que ça a été gelé,
C'est ça.
Et ça n'a et là la décision est
en train
d'être prise. Mais il y en a certains, il y en a beaucoup qui veulent aller plus loin et carrément utiliser tout l'argent qui a été gelé.
Et c'est
leur 300 milliards pour le donner à l'Ukraine. Mais ça, ce serait catastrophique.
Mais
et même Bruno Le Maire, qui n'est pas le plus éclairé de la bande, même lui, il a des craintes.
Il a compris.
Même lui, il a des craintes là-dessus.
Non, mais parce sur que le fait la de France saisir a des avoirs en Russie.
Oui, non, mais ça, justement, ben, mais il y aura des répercussions qui pourraient
être catastrophiques.
Comment peut-on sortir des énormités pareilles?
C'est hallucinant, voilà, que notre personne politique émette une idée aussi.
Mais Bardella, quoi, c'est quelqu'un qui est monté par le système, c'est ça?
Bien sûr.
Il a déclaré récemment qu'il ne fallait pas quitter le commandement intérêt de l'OTAN tant que l'OTAN était en guerre. Donc ça veut dire qu'ils ne quitteront jamais le commandement intégré de l'OTAN. On ne parle même pas de l'OTAN.
Et
le commandement intégré. Donc c'est hallucinant.
Et en plus, comme on l'avait dit l'autre fois là, quand vous m'aviez reçu, moi je suis persuadé qu'aujourd'hui le problème ce n'est plus l'Ukraine, c'est l'OTAN. C'est comment on sauve l'OTAN puisque la guerre est perdue.
Oui.
Et comme il ne faut certainement pas se poser la question de se dire on n'a plus besoin de l'OTAN, on va avoir une décennie de médiatisation à outrance pour nous dire les Russes sont à nos portes, de façon à ce que les Français
et les Américains
et les Européens
restent nos sauveurs,
fassent dans leurs pantalons pendant 10 ans et qu'ils se disent jamais « Attends, sortons de cette gang ». Donc on va vivre une période de pression ahurissante. Et il n'y a aucune raison pour que ça change.
Donald Tusk, le Premier ministre de Pologne, a dit « Nous sommes en avant-guerre ». Texto.
C'est ça.
Donc, voilà.
Ça ne veut pas dire qu'il y aura la guerre, mais il faut dire qu'il y aura la guerre.
Quoique, les mots de M. Macron ne sont pas rassurants.
Là, ils vont exactement dans ce sens-là.
Oui, mais ils vont dans ce sens-là, voilà.
Ça ne veut pas dire qu'il ira faire la guerre, mais il faut dire qu'on ira faire la guerre pour que personne ne se dise « Attends, le problème, c'est l'OTAN. Quand est-ce qu'on sort de ce truc, puisqu'il ne nous défend pas ?» Donc c'est une grosse question. Hein.
Merci à vous pour cet excellent débat.
Je peux ajouter un dernier
mot.
J'ai plutôt souhaité qu'il ne soit pas trop long. Je vais vous dire, c'est très rare que j'accepte les débats, je n'aime pas les débats. Bon. Je trouve qu'il y a un vice dans tous les débats, et notre vie politique et mentale, pour beaucoup d'entre nous, trop d'ailleurs, est encombrée de débats sur les télévisions. Je ne cite plus leurs noms, elles sont toutes... À mon avis, elles ont un effet catastrophique sur la réflexion politique. Parce qu'on parle, on parle, on n'a même pas précisé le sens des mots. Parler, c'est d'abord être sûr que votre interlocuteur comprend le mot, on a dit république, on a dit démocratie, comme vous l'employez. Bon. Donc déjà, c'est un vice de départ. Personne n'écoute l'autre. Chacun la ramène à son petit truc préparé, etc., etc. J'aime les conversations, d'ailleurs je produis une émission qui s'appelle Conversation sur une ligne concurrente, une chaîne concurrente.
Non, non, chez les amis, à TVL.
Sur TV Liberté. J'aime ce dialogue. Et encore avec des gens qui, quand on est à peu près au même niveau de langue et de compréhension des mots. Eh bien, je ne regrette pas du tout de vous avoir dit oui aujourd'hui.
Merci à vous.
Parce que je dis très souvent non, mais pour une fois, c'était dans le plein sens du mot. Je ne savais même pas qu'on allait parler de la violence, etc. C'était la conversation avec le plaisir d'entendre les autres et de dire ce qu'on avait à dire voilà. Avec le temps nécessaire. Je vous remercie beaucoup.
Ben, c'est moi qui vous remercie.
J'ai le temps de finir avec une petite blague.
Alors, 15 secondes.
Voilà. C'est à propos de autre. À une époque, j'étais au Bénin et il y avait un importateur qui voulait importer des moules de fonderie pour sa fonderie. Et comme en fait les taxes d'importation étaient très chères, il les avait importées sous la dénomination autres crustacés pour payer moins cher. La créativité africaine, voilà.
François a toujours des.
Alors, Paul-Marie Couteau, directeur du nouveau conservateur, les conversations aussi sur TVL, la dernière avec Monsieur Zemmour, le prochain sera avec qui?
Et le Floc Pigeon à voir,
j'aurais dit. Ah oui, le Floc Pigeon, bien sûr.
Avec le Floc Pigeon,
oui. Le prochain sera avec qui?
Merci, le Floc Pigeon, c'était très intéressant, mais elles sont toutes intéressantes. Le prochain, c'est Mathieu Bock-Côté.
Ah, très bien.
Et puis le suivant, Nicolas Dupont-Aignan. Ah bah, et c'est programmé.
Bah, une belle programmation.
Et le suivant encore, Boualem Sansal.
Ah, bah, très bien. Bah, en tout cas, merci.
Et je crois que celui qui suivra sera le comte de Paris.
Il faudrait que tu aies Alain Juillet une fois aussi.
Merci à vous, Paul-Marie Couteau. Lara Stam, qu'on accueille ici, de Radio Courtoisie, Libre Journal de Géopolitique Profonde, avec Nicolas Stocker. Merci beaucoup.
Il voilà,
faudra mettre aussi ta photo. Oui. Je sais pas pourquoi, ça que la sienne. Bon, bref.
Père Lara, il vous manque des cheveux là-dessus, sur la photo. Là,
c'est mon chéri.
En tout cas, merci.
Il est tel qu'il.
Merci beaucoup, cher
Mike,
Lara.
Merci pour l'invitation. Merci beaucoup.
François Martin, géopoliticien, l'Ukraine, un basculement du monde.
Merci beaucoup.
Merci à vous d'être là ce soir.
Quel plaisir.
Excellent livre. Où est-ce qu'on peut trouver ce livre?
Partout. Surtout à la librairie Vincent.
À la librairie Vincent. Vous faites bientôt une dédicace, peut-être?
C'est pas prévu, mais je pourrais le faire, oui.
Merci à vous, cher François Martin. Et enfin, Philippe Perlin, économiste, spécialiste du Bitcoin, éditorialiste. Tu seras là aussi vendredi soir avec Tom Benoît qui justement a posé la question à Prisca Thévenot et à Bruno Le Maire, qui possède la dette française.
Qui n'ont pas répondu.
Ils n'ont toujours pas répondu.
Voilà, comboté en touche.
Merci beaucoup. En tout cas, merci à vous d'avoir été si nombreux. 5500 personnes en même temps. Je vous souhaite encore un joyeux lundi de Pâques. Et à demain avec Xavier Poussard. On va parler de la grande histoire qui fait frissonner l'État. Voilà, passez une bonne soirée et à demain. Salut, ciao.
Je ne vois pas de quoi vous parlez.
L'événement mondial. La première dame n'en serait pas une.
Donc je voudrais, dans un monde idéal, que nous arrivions à être ce que nous sommes fondamentalement.
Jean-Michel Trogneux, Brigitte Macron.
Et sans politiquement correct.
Le 2 avril à 18h30, Xavier Poussard sera l'invité de GPTV pour une émission spéciale Jean-Michel Trogneux. Alors soyez prêts pour des révélations. Choc.
On n'a pas fait le top tweet.
Mais là, je
vous avez quelque chose d'important à dire.
Ah bon?
Oui. Et
sur Réville?
Oui.
Non, mais là,
Je pensais pas que. Mais le débat. Alors, je pensais pas que vous alliez aller sur ce terrain. Alors,
moi non plus.
Bah, j'étais très surpris.
C'est venu comme ça.
Il nous a fait de l'Antoine Dupont, il a pris la balle et puis il est parti direct. Il a...